Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Une semaine exceptionnelle de direct pour fêter les 40 ans de la grenouille. Le ravi a aussitôt répondu présent aux côtés des activistes du territoire qui font vivre cette singulière antenne citoyenne et culturelle. Joyeux anniv la batracienne. Nous voilà donc réunis pour une édition spéciale de la Grande Tchatch, le rendez-vous mensuel du ravi sur Grenouille. Et puisque cette matinée est placée sous le signe de la jeunesse, parler de l'école nous a semblé plus qu'utile. Hier, elles étaient en grève, dans le cadre d'un mouvement national pour défendre le service public. Demain, elles seront à nouveau au cœur de l'agenda politique avec ce lundi, la présentation d'un plan école par Benoît Payan, le maire de Marseille. Un grand plan, d'abord annoncé par Emmanuel Macron, un président en campagne qui est censé en préciser le contenu et le financement lors d'une nouvelle visite à Marseille le 16 octobre prochain. Car si Marseille n'a pas le privilège des villes où les écoles primaires publiques dysfonctionnent faute d'investissement, d'entretien et de personnel suffisant, on y bat des records. Records d'indignité avec trop de locaux hors d'usage, exigus, parfois insalubres. Records d'inefficacité pour répondre aux besoins des enfants, aux attentes de leurs parents, aux revendications des personnels et enseignants afin de mener à bien leur mission. Au micro pour vous servir, Michel Guéraud, grand tchatcheur chargé de modérer la discussion. À mes côtés, Jean-François Poupelin qui suit de près pour le ravi le dossier école. Et avec nous, surtout dans ce studio, trois invités. Barbara Miré, vous êtes professeur des écoles à l'école maternelle 9 Sainte-Catherine. Vous êtes aussi référent dans les 4, 5, 6 et 7e arrondissements du SNU IPPFSU, le syndicat majoritaire du premier degré. Arnaud Duplex, vous êtes parents d'élèves, membres du collectif des écoles de Marseille, le SEUM, toujours colère face au délabrement des écoles et la lenteur des réponses proposées. Yanis Darieux, co-secrétaire général de la FSU des territoriaux de la ville de Marseille, vous représentez le personnel municipal dont la présence ou l'absence conditionne aussi le bon fonctionnement des établissements. Il manque à l'appel un représentant de la mairie. Tous les élus devaient au départ être aux côtés du maire lors de la présentation à la presse ce mercredi matin, là en ce moment même, de son plan école. Le rendez-vous a été annulé hier après-midi et reporté lundi prochain. Mais nos invitations à venir aujourd'hui sur ce plateau n'ont pas été suivies d'effet. Tant pis, ce n'est qu'un début, le débat continue. Jean-François, à toi l'honneur de le lancer.
Bonjour et merci à vous trois d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Yanis, sur les raisons des mouvements de grève qu'il y a eu vendredi et surtout hier dans les écoles. Voilà pourquoi les personnels se sont mobilisés une nouvelle fois.
Alors c'est comme d'habitude, bonjour à tous déjà. C'est un appel national qui a été lancé pour défendre justement le service public, comme disait si bien votre collègue. La réévaluation, comme toujours, des salaires de toute la fonction publique, puisque le point de gel est toujours bloqué. Et après, le statut de l'agent public que l'on défend et qui est mis à mal en ce moment par beaucoup de recrutements et la loi de la fonction publique territoriale de 2019 qui appelle de plus en plus à recruter du personnel vacataire.
D'accord. Et dans les écoles, est-ce qu'il y avait des raisons spécifiques? On parle beaucoup d'absence, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements aussi, malgré d'ailleurs le vote en conseil municipal d'une délibération encadrant le droit de grève dans le cadre de la loi de la réforme de la fonction publique.
Tout à fait.
Donc, d'une part, quelles étaient les revendications des personnels des écoles en particulier et comment s'est passée cette journée dans les écoles?
Alors, la journée dans les écoles, on a eu 75 écoles fermées, 29 restaurants fermés, 119 en pique-nique. Donc ce fameux protocole d'anti-grève qu'on appelle comme ça, on préfère l'appeler comme ça parce que c'est vrai qu'il a été signé par FO, UNSA et CFTC, il faut bien le rappeler quand même. La CGT et la FSU ne l'ont pas signé parce que on dénonçait justement un protocole qui ne prenait pas en compte les problématiques du terrain. Les problématiques du terrain sont un manque d'effectifs récurrent. La ville de Marseille a fait un audit en début d'année sur en comparaison avec d'autres villes comme Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris. Dont un audit, donc on n'a pas eu les retours ou que partiellement. Ce qu'on en sait, c'est que Marseille est très mal placée par rapport aux autres villes au niveau du taux d'encadrement. Donc on en revient toujours à ça, les agents font grève depuis plus de 10 ans, c'est par rapport à ce taux d'encadrement qui est ubuesque. Un agent des écoles encadre en moyenne en primaire jusqu'à 75 enfants. J'appelle les parents. Imaginez-vous avec deux enfants, des fois c'est déjà difficile. Alors avec 75 enfants pendant un repas, mettez-vous à la place des agents. Pour la maternelle, c'est pas mieux. On est sur des fois, on monte jusqu'à 50 enfants pour un adulte en maternelle pour leur donner à manger, pour sachant qu'en plus les enfants sont de plus en plus jeunes en maternelle. Donc avec tous les risques qui sont induits, ça cause des gros problèmes.
D'accord. Donc pour rappel, sur les taux d'encadrement à Montpellier, tournent plutôt autour de 1 sur 8 en maternelle, 1 sur 12 en élémentaire. Enfin, la moyenne en gros c'est 1 sur 15, 1 pour 15, 1 pour 10 en maternelle, 1 pour 15, 20 en élémentaire. Ouais. Donc on en est très loin.
C'est ça. En temps normal, à la ville de Marseille, on devrait être, je dis bien on devrait être, 1 pour 25 en maternelle et 1 pour 50 en primaire. On est largement au-dessus de tous ces taux annoncés, quoi.
Ok. D'accord. Michel?
C'est plus question plus conjoncturelle, mais hier, donc, il y avait une grève, ça faisait longtemps, il y a eu le confinement, etc. C'était le premier grand mouvement social, avec un delta toujours à Marseille, 3500 personnes selon la police dans la rue, 25 000 selon les manifestants. Ce mouvement a été suivi, et en particulier dans le domaine là dont on parle ce matin, c'est-à-dire dans les écoles. Est-ce que c'était une mobilisation conséquente?
Malheureusement non, puisque effectivement ce fameux protocole anti-grève restreint les agents de se déplacer, puisque c'est vrai qu'ils sont contraints de poser une journée entière, et la journée pour un agent c'est 70 €, donc 70 € pour un agent qui gagne 1 500-1 600 €, c'est très difficile de faire une grève et se dire à la fin du mois je vais être impacté. Mais elles font grève, c'est encore une fois, c'est pour dénoncer un problème de sécurité par rapport aux enfants. C'est pas le plaisir de rester à la maison, encore une fois, comme j'ai souvent entendu. C'est vraiment dénoncer et tirer la sonnette d'alarme en disant attention, la sécurité de vos enfants, on ne peut plus l'assurer.
Je m'excuse une fois de plus, Barbara, je vais pas vous donner la parole, malgré que vous soyez la seule femme autour de ce plateau. Arnaud, je voulais voir du côté du collectif quels échos vous aviez eu, vous, sur la gestion de ces grèves à travers ce protocole, ce nouveau protocole d'encadrement ou de casse du droit de grève. Et puis, d'une manière générale, où est-ce qu'on en est selon vous aussi sur la question de l'encadrement et des recrutements?
Alors, il faut d'abord préciser, parce que les parents qui nous écoutent ou toutes les personnes sont peut-être surprises par ce taux d'encadrement qui est de 1 pour 75, 1 pour 50 ou autre. Il faut préciser que c'est un choix de la ville, que ce temps de la pause méridienne reste un temps récréatif. Dans d'autres villes, il y a eu ce choix, il est vraiment tout autre, où c'est du temps périscolaire. Donc à partir du moment où vous avez un temps périscolaire, eh bien vous avez une validation qui est faite par le ministère de la Jeunesse, qui rentre dans le cadre d'un financement CAF et donc du coup qui tombe sous le coup d'une réglementation sur le taux d'encadrement de 1 pour 14, de 1 pour 12 en fonction de l'âge. C'est pour ça que dans certaines villes on arrive assez rapidement à ces taux-là parce qu'eux ils ont décidé de faire de ce temps de la pause méridienne un temps périscolaire.
Excusez-moi de vous couper, quelle ville par exemple?
Alors il y a Montpellier, il y a Rennes. Alors Rennes c'est assez intéressant parce que Rennes avait été pris comme modèle au départ pour l'application de ce protocole de droit de grève. Alors on va pas refaire la petite histoire, mais ce serait Rennes était précurseur parce qu'ils avaient déjà mis en place ce protocole avant que la loi elle-même soit passée. Hein, c'est-à-dire que le DRH, maintenant on parle de DRH au niveau des collectivités, le DRH de la ville de Rennes fait partie de cette association des DRH des plus grandes collectivités de France et qui ne s'en cache pas font du lobbying auprès des parlementaires. Donc ce sont eux qui ont rédigé principalement les textes de loi qui ont été appliqués ensuite. Donc dans une situation telle que la ville de Rennes, chacun peut aller voir sur le site internet et retrouver les informations, ils sont pas du tout dans les mêmes conditions de travail et de sécurité pour nos enfants que la ville de Marseille. Donc ça c'est le premier point, il faut vraiment rappeler que ce taux d'encadrement n'est pas une fatalité hein, pour une ville. Il y a une volonté politique aussi qui peut être mise en place pour qu'on arrive sur du temps périscolaire, sur cette pause méridienne, et qui changerait vraiment beaucoup de choses. Du temps périscolaire pour l'apprentissage du goût, pour l'apprentissage, voilà, on pourrait imaginer pas mal de choses sur le développement durable ou autre. Donc là, actuellement, c'est vraiment un temps de garderie. Alors l'impact, il nous avait promis effectivement que ça allait régler beaucoup de problèmes. Nous, on avait déjà alerté sur quelque chose qu'on peut faire un protocole. C'est un peu comme les marchés de partenariat à l'époque. Nous, on disait, on avait rien contre le fait que la ville aille emprunter 350 millions d'euros pour investir sur les marchés de partenariat. Par contre, c'est la manière dont c'est fait. Et là, pareil, le protocole du droit de grève, s'ils veulent l'appliquer, très bien, mais l'incidence était le taux d'encadrement minimum qui était positionné à 1/70. Enfin, c'est des taux qui sont aberrants, mais ils pouvaient pas faire autrement s'ils voulaient appliquer ce protocole de droit de grève, parce qu'on est déjà à des taux qui sont fortement dégradés. Donc c'était vraiment ubuesque de mettre un protocole avec des taux d'encadrement qui sont de 1/70, qui sont pas du tout à la hauteur des engagements de la ville d'ailleurs sur le fait de faire l'école une priorité, quoi.
Donc avant de revenir sur ce programme et puis l'avancée justement de ce programme, Barbara, comment ça se passe, vous, quel impact ça a au quotidien dans les écoles, ce taux d'encadrement dégradé, pour reprendre l'expression d'Arnaud, sur la vie de l'école et sur la vie des enfants, sur la vie des instituts aussi.
Bonjour. Alors, écoutez, plusieurs choses intéressantes dans ce qui vient d'être dit. Déjà, moi, je rappellerai que, comme l'a dit Arnaud et comme l'a dit aussi Yanis, hein, sur le taux d'encadrement du personnel municipal à la ville de Marseille, le choix a été fait, comme dans d'autres villes, Paris par exemple, deux grandes villes, de mettre une ATSEM de moins que le nombre de classes. C'est-à-dire qu'une école à 7 classes n'aura que 6 ATSEM. Donc déjà, on voit là au départ que ça peut pas marcher. Enfin, je veux dire, des classes ne peuvent pas fonctionner sans agent. C'est absolument impossible ou extrêmement compliqué. Moi, je voudrais dire aussi que sur ce qui s'est passé en particulier hier, mais déjà vendredi, moi, sur mon secteur dans le 7e, il y a des écoles. Je ne vais pas les citer toutes, mais en tous les cas, une école qui est près du centre-ville, qui s'est retrouvée en élémentaire avec 150 enfants pour 2 adultes. Entre midi et deux. Donc là, on voit bien la dangerosité de la chose. Je rappellerai aussi, pour ceux qui ne le savent pas, que dans les écoles, nous avons y compris des enfants qui ont des protocoles alimentaires type allergique assez graves, puisque nous faisons des PAI, ce qu'on appelle des projets d'aide individualisés, qui sont des réunions, par exemple, en concertation avec les médecins scolaires, avec les cantinières des écoles, avec les directeurs et les enseignants, où certains enfants ont des protocoles qui peuvent être extrêmement lourds, avec administration en urgence de médicaments en cas de crise allergique ou d'œdème sévère. Moi, je pose la question, quand des agents sont déplacés d'une autre école entre midi et deux, ne connaissent absolument pas les enfants dont ils vont avoir la charge, qui auront des pique-niques qui peuvent évidemment circuler d'un enfant à l'autre, donc le risque que des enfants gèrent des choses qui leur sont interdites. Qu'est-ce qui se passe en cas de pépin? On est dans une espèce de vide total et je pense que si on n'a pas encore d'accident, ça ne saurait tarder si effectivement la mairie continue et persiste dans le remplacement des agents grévistes, ce qui est pour moi une aberration totale. Après, le taux d'encadrement dans les écoles. Il est évident que pour tous les parents qui rentrent dans les écoles et voient comment fonctionnent les classes, on peut tout à fait comprendre qu'on ne peut pas travailler sans ATSEM, en particulier en maternelle. J'ajouterai aussi à ça que lorsque les agents sont déplacés, pas que les jours de grève, mais les autres jours, lorsque les agents sont déplacés pour aller justement aller en renfort dans des écoles où il manque du personnel, en maladie ou en ASA, etc., il faut que les agents aient un temps de trajet et un temps de repas. Donc quelquefois, ces agents quittent l'école à 9h30, 10h moins le quart, 10h, et idem pour le retour, arrivent à l'école à 2h, 2h30, 3h. Donc on voit qu'en dépouillant une école, on met à mal plusieurs écoles, en fait. Donc ça, nous, au niveau du FNIPP FSU et de la FSU, puisque Yanis représente les territoriaux, pour nous, c'est vraiment un sujet extrêmement sensible qui mène la vie dure à tout le monde, hein, ATSEM et enseignants.
Arnaud ?
Ouais, enfin, je trouve que c'est significatif de la vision du service public. C'est-à-dire, nous, au niveau du SUM, ça fait un moment qu'on cogite autour de cette question. On défend, bien entendu, les services publics, mais on se rend compte qu'il y a deux visions du service public. Il y a le service public en tant que service rendu, Et donc, à ce moment-là, il y a une erreur qui est faite au niveau de la ville, où on considère que l'usager principal des écoles, c'est avant tout les parents. C'est-à-dire que, ils imaginent l'école comme une boîte noire. Et en fait, le but, c'est que les parents amènent l'enfant le matin et le récupèrent le soir. Alors que nous, on a une vision du service public comme moyen, hein. C'est-à-dire que, et puis, l'usager premier dans une école reste quand même l'enfant. Donc tout ce qui est, à partir du moment où on a ces deux positionnements, on comprend mieux certains agissements ou certaines décisions qui peuvent être prises. Donc maintenant, le combat, il est vraiment sur faire en sorte de ramener le curseur de la ville, les rendre raisonnables en accord en ligne droite avec leur programme sur le fait de renforcer le service public en tant que moyen et non pas en tant que service rendu.
Pour rebondir sur la grève de vendredi, je crois que c'était vendredi où on a eu des échos de vrais dysfonctionnements où des ATSEM ont été, enfin des ATSEM ont écoles, été déplacés dans le troisième où en fait le pique-nique avait pas été prévu, c'est les ATSEM qui ont été chercher du pain et du fromage dans le supermarché d'à côté pour donner à manger aux gamins qui étaient présents, quoi, qui étaient restés. Enfin,
il y a eu une désorganisation, il y a eu des écoles qui étaient prévues fermées, elles ont réouvert parce qu'ils avaient déplacé du personnel qui venait d'autres écoles pour ouvrir ces écoles. Donc, personne n'était au courant que l'école était ouverte. Et ce personnel déplacé a fait en sorte que les cantines se ferment pour des pique-niques qui, normalement, devaient être préparés par les parents, qui eux-mêmes n'étaient pas prévus. Donc, on est arrivé à ce type de situation où ce sont les ATSM qui sont allés acheter du pain de mie et certainement...
Yannis,
c'est bien ce qu'on dénonce depuis le début. C'est l'organisation ou la désorganisation, plutôt, de toutes ces grèves, mais que les secteurs doivent gérer et qui ne gèrent pas du tout. Ils n'arrivent pas à gérer ça. Alors, un secteur a une centaine d'écoles à peu près, et il y a un chef de service qui doit manager ses agents pour dire voilà, tel endroit on ouvre, tel endroit on ferme, et le protocole encadre bien ça en disant c'est 48 heures à l'avance. À 48 heures à l'avance, l'administration, les chefs de secteur doivent définir les écoles qui ferment ou les écoles qui ferment pas. Ça met en porte-à-faux les parents parce qu'ils ne sont pas au courant, et ce protocole disait clairement, on prévient les parents 48 heures à l'avance, ce qui n'est pas fait de partout. C'est fait à certains endroits, mais pas partout. Et en majorité, c'est pas fait. J'ai encore des exemples où effectivement, on a prévenu les parents. Donc, pour la grève de mardi, on les a prévenus lundi à 12 heures. C'est inadmissible. Le protocole prévoyait que ce soit les responsables de restaurants qui prévenaient le secteur et qui géraient après l'information aux parents. Ce n'est toujours pas le cas. Encore une fois, c'est un problème de secteur qui n'arrive pas à gérer, qui n'ont pas les outils ou qui maîtrisent pas l'outil informatique, qui sont pas assez développés pour bien gérer le dispatching des agents. On envoie ce que disait tout à l'heure Barbara, c'est qu'on envoie les agents des fois à aller, je vais dire une bêtise, mais on est à 15 km de leur lieu de travail. Donc effectivement, le temps perdu, les agents, s'ils ont pas de véhicule, ils partent en bus, c'est 2 heures. Ou s'ils sont de l'autre côté de l'Yvonne, moi j'ai une histoire en tête, on l'a fait traverser de l'autre côté de l'Yvonne, mais sauf que si vous êtes à la Valentine et que vous devez aller de l'autre côté à la Batarelle, vous devez descendre en ville à Castellane pour remonter dans l'autre sens. Vous perdez une heure de bus.
Okay. Voilà. Donc, à la décharge du printemps marseillais, le manque d'effectifs dans les écoles est quand même très 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 ancien. Une des promesses du printemps programmatique, hein, j'ai ressorti leur programme, je l'ai sous les yeux. Donc c'était, il y avait notamment concernant les ATSEM, c'est mettre à disposition une ATSEM par classe de maternelle sur l'intégralité du temps scolaire, donc 8h-17h, ainsi qu'un contingent de 300 agents volants. Donc, Yannis, où en est-on dont parle d'un plan pluriannuel de recrutement
plus maintenant,
ok. Où est-ce qu'on est dans cette situation, hein?
Alors, pour l'instant, la réponse qui nous est donnée par l'administration, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une réorganisation du service des écoles qui doit être fait incessamment sous peu. Enfin, qui a été lancé, puisqu'on a eu l'audit, ce que je disais tout à l'heure, avec les autres villes, pour voir où se situe Marseille. Donc, dans le retour qu'on a eu, gros état de délabrement,
c'est innommable. La ville reconnaît qu'effectivement, Marseille est mauvaise partout.
Tout à fait. Donc déjà, c'est déjà bien de reconnaître. Après, sur les plans de recrutement, pour l'instant, on nous a annoncé encore cette semaine 230 recrutements, sauf que il y a 23 ATSEM qui ont été recrutés, ouais, pour 473 écoles. 2000
pour la rentrée là.
Oui, pour cette rentrée-ci. Okay. 2000 classes, donc c'est incohérent quoi. Et en plus sur les 200 et quelques, il y a surtout des contrats qui sont passés de 10 heures à 40 heures. Donc ce n'est pas du recrutement, c'est juste on rallonge un petit peu du temps de travail. Et la majorité, c'est ça. Ce sont des contrats. En plus, on en vient aussi à la paupérisation parce que ce sont des agents qui sont sous contrat et ce ne sont plus des fonctionnaires. Mmh. Ils ne sont pas stagiarisés ni titularisés. C'est ça qui est inquiétant. C'est, de toute façon, on va dans ce que veut Monsieur Macron, c'est-à-dire la transformation de la fonction publique, qui est une majorité d'agents contractuels.
Okay. Michel, oui, et puis après Arnaud.
On va parler de Macron, évidemment, un peu plus tard dans l'émission, mais Barbara Mieré, on l'a dit, vous êtes FSU, Yannis Dariot également. Cette majorité municipale, elle a défendu pendant sa campagne des idées qui vous sont proches. Pierre-Marie Ganozzi, pour ne citer que lui, l'adjoint en charge du plan école, est un ancien président départemental de la FSU dans les Bouches-du-Rhône. Arnaud Duplex, vous avez été vous-même candidat sur Nice du printemps Marseille.
Élu.
Et puis finalement vous êtes retourné à la société civile assez rapidement. Bref, donc il y a une proximité avec cette équipe de par vos parcours, de par leur parcours. Et comment vous regardez la façon de prendre en main ce dossier des écoles de cette majorité là?
Bah, moi je dirais que j'ai qu'une seule boussole, hein, c'est celle du service public, et que quel que soit l'interlocuteur qui est en face de moi, je réfléchis. Je mesure et je prends la mesure plutôt et j'agis avec la FSU justement pour que les choses avancent. Et je suis évidemment à titre personnel, mais pas que, hein, extrêmement déçue par l'immobilisme de la municipalité. J'étais évidemment extrêmement heureuse du programme en particulier. Pour les écoles, et effectivement un an et plusieurs mois après, on est quasiment au point mort. Enfin, il y a beaucoup d'effets d'annonces, beaucoup de belles annonces, et dans les faits, concrètement, Yannis vient de le dire, moi j'allais en parler aussi, la précarité, parce que évidemment, elle gangrène aussi ma profession, hein, puisque les recrutements de contractuels enseignants viennent d'être faits, là encore pour les Bouches-du-Rhône, contractuels qui sont embauchés après des vacances et virés juste avant des vacances. Donc oui, moi je suis très très déçue par ce qui se passe. Après, on va voir l'annonce de lundi. J'espère qu'il va y avoir des choses intéressantes, mais bon, prudence quoi. En tout cas, SNUIPP, la FSU, je pense que Yannis sera d'accord avec moi, on sera là quoi, je veux dire, pour exprimer notre point de vue.
Avant de passer aux moyens matériels, qui était une autre des thématiques excusez-nous, on est en train de discuter avec Jalil, le technicien. Donc, avant de passer aux moyens matériels, Arnaud, vous aviez fait une demande CADA pour connaître les effectifs des écoles. Vous avez une réponse positive. Je crois que la ville sait à peu près aujourd'hui combien ils ont d'agents ou pas tout à fait encore quand même. Il y a encore un peu de flou. Vous en êtes où sur cette demande-là?
Alors, on a fait, donc assez rapidement, on a retrouvé un peu les mêmes. Alors, à l'époque de Godin, c'est vrai qu'on n'avait aucune réponse. C'est-à-dire que c'était assez opaque. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'accédait pas à l'information. Nous, ce qu'on voulait, c'est que le sujet soit vraiment mis sur la table par cette nouvelle municipalité. Comme l'a dit Barbara, on a côtoyé, ne serait-ce que dans le collectif Marseille contre les PPP, Jean-Marc Coppola, Benoît Payan, Pierre-Marie, voilà. Donc, on a été au quotidien quasi pendant un an, deux ans sur le combat des PPP. Donc, on se connaît bien. Et nous, on a été surpris que le problème ne soit pas mis sur la table. Et assez rapidement, on nous a opposé les problèmes financiers. Alors que l'audit financier, alors ils ont de suite fait un audit financier, mais on a rien découvert sur l'audit financier. Tout était connu déjà à l'avance. Donc on nous oppose cette réponse de « c'est compliqué, on peut pas, on n'a pas l'argent », que Joël Canicave commence à monter en puissance sur ce
Joël Canicave, qui est l'adjoint en finance.
Qui est l'adjoint en finance, commence à monter en puissance par rapport à ses autres collègues élus, et puis commence à mettre la pression sur ça. Et on l'a vu, ils ont fait un budget d'austérité été ensuite. Donc on a été assez surpris. Donc on s'est dit, bon, ben, on va leur demander officiellement, comme dans le programme, il y avait cette notion de transparence qui était assez importante, on leur a demandé d'accéder aux informations sur les effectifs. Bon, plein d'autres, hein. On a une quinzaine de demandes de communication de documents, en fait, hein. Et donc, ils nous ont pas répondu. On a saisi la CADA, donc la Commission d'accès aux documents administratifs. Il faut savoir que depuis les années 70, hein, mais depuis 2016, c'est codifié dans le code des relations entre l'administration et le public, où tout document fourni et élaboré par une commune, par une collectivité, est communicable. Hein. C'est la grande majorité. Donc ces documents-là, ils les ont, c'est-à-dire qu'ils nous disent on a du mal à avoir les effectifs, ils les ont, puisqu'il y a des fiches de poste école par école, on a précisément la liste des postes. Nous, ce qu'on demande, c'est les choses qui sont réalisables, c'est-à-dire la liste des postes par école, donc ça, qui sont prévus, et puis ensuite la liste des effectifs avec les absences à l'échelle de secteur. Ça, ils les ont aussi. Eh bien, on nous a rien communiqué jusqu'à maintenant. On les a redemandés encore récemment, malgré l'avis positif de la CADA. La prochaine étape sera le tribunal administratif, mais c'est vraiment dommage.
En sachant que dans l'organisation des écoles, il me semble que donc cette sectorisation dont tu parles, c'est un agent pour 1000, c'est un agent qui gère 1000 agents sur le terrain.
Ouais, alors c'est ouais.
C'est à peu près ça.
Bon, tu parles du responsable de secteur.
Ouais, du responsable de secteur.
C'est vraiment une organisation qui est assez archaïque, hein. C'est-à-dire que ça date des années 80, depuis les lois de décentralisation, en fait, hein. Ils ont dû mettre ça en place. Quand vous rentrez, vous avez un grand couloir dans chaque secteur, hein, et vous avez les tableaux comme dans les industries où vous avez avec les fiches. Donc le déplacement d'agents, c'est simplement un déplacement de fiches. Mais malgré ça, ils peuvent quand même avoir une situation précise.
OK.
Petite pause. La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Alors une tradition dans cette Grande Tchatche, il y a toujours une petite pause musicale. Et donc là, chanson de circonstance, qu'as-tu appris à l'école, mon fils, aujourd'hui, Grimmel White?
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? Que les gendarmes sont mes amis et tous les juges très gentils, que les criminels sont punis pourtant, même si on se trompe de temps en temps. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? Le gouvernement doit être fort, a toujours raison et jamais tort. Nos chefs sont tous très forts en thème et en élit toujours les mêmes. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? J'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y en a des grandes et des spéciales, qu'on se bat souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école.
Pour poursuivre notre débat, nos échanges sur les moyens de l'école, En dehors des moyens humains, il y a une autre problématique à Marseille qui est celle des moyens financiers, des moyens alloués pour les enfants. Voilà, l'histoire locale raconte que à une période, il fallait que les parents fournissent même le papier toilette. On n'en est plus là, il me semble. Le printemps marseillais avait fait aussi de l'augmentation de ses moyens un des axes de son programme. Donc, je ressors ma petite fiche. Et donc, notamment, on avait l'augmentation du budget de la caisse des écoles, l'augmentation du budget des fournitures scolaires et autres fournitures, garantir la gratuité des transports en commun. Enfin, voilà, un certain nombre de choses comme ça. Barbara, où est-ce qu'on en est sur cette deuxième rentrée du printemps marseillais?
Bah écoutez, je vais vous dire que je suis encore très très déçue. Parce que effectivement, dans les écoles, ça s'améliore pas. C'est-à-dire que les budgets alloués par classe n'ont pas augmenté. La caisse des écoles a fait des effets d'annonce. Alors, y compris le printemps marseillais a annoncé que les écoles seraient équipées de vidéoprojecteurs, par exemple. Un vidéoprojecteur par école élémentaire, un par maternelle. Mais d'abord, puis ils sont revenus dessus. Maintenant, c'est un pour l'école élémentaire. Enfin bon. Il y a un manque de matériel énorme. Je peux vous dire par exemple que le matériel sportif qui coûte extrêmement cher. Alors déjà une classe c'est à peu près 800 euros en moyenne. Hein, ça dépend des écoles parce que bon c'est une histoire de quotité, de nombre d'écoles, de nombre d'enfants, etc. Mais on a entre 800 et 1000 euros par classe de budget. Ça paraît beaucoup mais c'est en fait très peu puisque d'abord nous ne pouvons faire des commandes que sur des marchés publics passés par la ville. Donc on n'a pas le choix. On doit avoir 4-5 catalogues possibles avec des tarifs qui sont pas toujours d'ailleurs très intéressants. Ensuite, si on veut acheter du matériel, c'est sur ces 800 euros, le matériel sportif, hein, j'entends, pardon, qu'on doit le prendre. Or, un tapis de sol, par exemple, ça vaut 150, 200, 250 euros. Donc, vous voyez que c'est extrêmement insuffisant pour des écoles. Et je dirais même que les écoles neuves, enfin, les quelques écoles neuves ou récentes, n'ont quelquefois démarré sans rien. Et attendent des mois avant d'avoir un équipement digne de ce nom dans une salle de sport ou dans des classes, y compris du mobilier. Donc non, c'est non, grande déception. Surtout quand même, excuse-moi, c'est l'année dernière, enfin depuis un an et demi, on vit quand même une crise sanitaire terrible. Les écoles ne sont pas sorties, n'ont pas utilisé de bus, n'ont pas utilisé de transport, ne sont pas allées au musée, n'ont pas fait d'achat particulier. Donc il y avait un fonds de réserve, enfin inutilisé par la caisse des écoles et par la mairie. Donc on s'est dit, chouette, l'année prochaine, on va avoir beaucoup plus d'argent, on va pouvoir compenser des manques, etc. Et en fait, pas du tout. Le budget était le même, à quelques exceptions près, à la marge, mais vraiment très peu, quoi. Par exemple, je cite un exemple rapide, un budget livre dans mon école, offert par la Caisse des écoles, c'est 70 euros, c'est-à-dire l'achat de 6 livres par classe.
Arnaud?
Ouais. Oui. Alors ils ont effectivement, il y a eu un report de non budget dépensé sur la caisse d'école qui a été reporté sur l'année suivante. Alors du coup, ça a augmenté un peu mécaniquement le budget de la caisse d'école, mais historiquement, la caisse des écoles, c'est un objet social. Hein. C'est pour aider les familles qui sont en difficulté. C'est donc autant, je pense que l'année dernière, on aurait pu largement l'utiliser pour les familles qui étaient un peu en difficulté, ne serait-ce que sur les accès aux outils ou autres. Enfin bref, il y avait moyen de dépenser cet argent. On l'a pas dépensé parce qu'on est vraiment dans un budget d'austérité. Les budgets, on a le compte administratif de l'année 2020, on a le budget primitif 2021. Eh bien, on voit bien qu'il n'y a pas eu d'évolution. Il y a même eu une baisse, hein, si on regarde le budget de fonctionnement sur les écoles, si on enlève les charges de personnel et si on se focalise sur le reste, on a eu une baisse de quelques millions d'euros. Donc, on a à peu près, le budget de fonctionnement, c'est une trentaine de millions d'euros. Ça varie, 30, 31 millions d'euros, c'est ce qu'on avait sous Godin. Alors là, on enlève directement 12, 13 millions d'euros hein, qui vont pour les écoles privées. Hein, déjà, ça fait tomber un peu le score. Et puis après, on arrive sur des charges qui sont incompressibles. On a les fournitures scolaires, ils les ont contraints. On a les fournitures d'énergie, pareil, on les a contraints. Il y a la petite maintenance, l'entretien, hein, tout ce qui rentre pas dans l'investissement. On est vraiment sur le petit entretien, pareil. Donc il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de révolution budgétaire sur le budget des écoles. Donc effectivement, on est toujours en attente d'amélioration sur cette notion de budget. On est vraiment sur un budget d'austérité, hein. C'est-à-dire que Joël Kanika avait dit que c'était pas un budget d'austérité, ou c'est Benoît Payan qui l'a dit. Mais clairement, on est sur un budget d'austérité. Un budget d'austérité, en fait, on va compresser les dépenses de fonctionnement pour maximiser ce qui va pouvoir partir financer l'investissement, en fait, hein. Donc, alors que l'argent coûte peu cher en ce moment, donc on pourrait emprunter, on va le faire là massivement. Il y a des incompréhensions. On voulait que l'école, on voulait renverser la table, faire de Marseille une autre Marseille, vraiment. Et là, on se prend un peu les pieds dans le tapis. Et maintenant, plus le temps avance et plus le printemps marseillais va être comptable de ce qui va se passer au niveau des écoles.
Okay. Il y a des explications en dehors de la crise sanitaire, hein, ou pas? Parce que justement, le discours de la ville, c'était de dire 2021, il y aura un vrai changement budgétaire, donc il n'est pas là.
Non, il n'est pas là.
2022, on nous dit que ça va être le prochain marqueur, mais...
Non, j'ai pas l'impression. Enfin, nous, alors il y a beaucoup de travaux, hein, qui sont sur la table. La Caisse des écoles, on en parlait, donc il y a une remise à plat qui est faite au niveau de la Caisse des écoles. Que va faire la Caisse des écoles ensuite, on sait pas trop, hein. On n'a pas de transparence sur ces actions. Faut aller sur le pavillon d'Aviel, enfin, sur le fronton du pavillon d'Aviel pour aller voir les rapports. Des comptes rendus de ce qui se passe au sein de la Caisse des écoles, c'est le seul endroit où on peut le voir, et encore je pense qu'ils ont dû mettre ça ailleurs parce qu'on les voit plus maintenant, donc c'est peut-être rue Fauchier. Bon voilà, donc c'est compliqué pour nous en tant que militants d'accéder à l'information. En tout cas, sur la Caisse des écoles, il y a un projet, mais on ne sait pas trop. Sur le transport, effectivement, il y a un flou artistique sur la gratuité du transport. Il y a dans la délibération de la métropole, c'était mal écrit. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un budget. Est-ce que c'est un budget maximum qu'ils vont pouvoir allouer aux écoles marseillaises? On ne sait pas trop. En tout cas, on a l'impression qu'actuellement, c'est par paquet de 200 tickets qui sont offerts. Enfin voilà, c'est un flou sur ce transport. Sur la restauration, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Et sur le périscolaire, j'espère qu'on en parlera de tout à l'heure. Il y a eu une tentative de passer un nouveau marché en cours d'année qui a été avortée. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe au niveau de ce marché périscolaire, sachant qu'il y a le projet d'éducation du territoire qui est en train d'être fait aussi. Enfin, tout ça se fait avec beaucoup d'AMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça aussi, c'est un syndrome qui est plus à l'échelle nationale. C'est-à-dire, on voit fleurir des AMO. Alors, il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est souvent CGI Business Consulting qui intervient de manière transverse. Ils doivent intervenir vis-à-vis de l'UGAP. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup de conseils qui sont demandés, mais il y a très peu d'actions. Donc,
est-ce que quand même, après un peu plus, presque deux ans, un peu plus d'un an et demi de présence, avec une crise sanitaire qui a aussi mobilisé beaucoup les services, qui a eu un impact sur les personnels, est-ce qu'il n'y a pas une logique à ce que ça prenne quand même un peu de temps de vouloir justement renverser la table?
Ouais, alors je pense qu'Yanis pourrait en parler, mais nous ce qu'on attend aussi au niveau du SEUM, bon, c'est pour le bien de l'enfant, il faut revaloriser ces métiers. C'est tous les métiers qui sont autour de l'enfant, qui sont au contact des enfants. Ça, c'est un chantier qui ne coûte pas. Il faut le mettre sur la table. La première chose qui a été mise en place, ça a été ce protocole sur
l'encadrement
du droit de grève. Donc on était un peu surpris sur cette démarche. Donc il va falloir. Alors la grosse évolution quand même, hein, le gros plus, c'est que les élus de secteur font un travail phénoménal, et les parents d'élèves, ou même les représentants de parents d'élèves ou les APE ont des contacts quand même. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne majorité, hein. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté d'agir ensemble. Par contre, on sent bien que dès qu'on passe la mairie de secteur et dès qu'on arrive en mairie centrale, là, c'est plus compliqué, quoi.
D'accord. Donc, on va pas poursuivre, malheureusement, sur ces moyens. On va passer à l'autre, hein, ou même le gros morceau, la grande promesse du printemps marseillais. C'était la question de la rénovation des écoles, la construction d'écoles. Donc, le bâti, c'est ce plan école qui devait être annoncé ce matin et qui le sera peut-être lundi s'il n'y a pas trop de pluie ce week-end. Yanis, vous avez eu quand même la primeur d'une présentation. Hier, les syndicats ont été réunis pour vous donner en tout cas les grandes lignes. Est-ce que vous pouvez nous présenter en primeur sur Radio Grenouille ce que va être ce grand plan école?
Alors en primeur, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que presque tous les syndicats ont été réunis, comme d'habitude, on va dire, puisque encore une fois, FO a fait faux bond en argumentant qu'ils pouvaient pas encore se déplacer, qu'ils ont fait une visioconférence hier avant-hier, avant tout le monde. Encore une fois, petite parenthèse, mais c'est vrai que pour nous, on continue encore la cogestion. Rien ne change, tout continue. Sur le plan école, bah, pas grand chose, à part la présentation des grandes lignes, qui est les 174 rénovations et, dans les 174 rénovations, construction de nouvelles écoles. Combien, on n'en sait rien, puisque ce sera Monsieur Payan qui garde la primauté. Là-dessus, donc, il y aura des analyses, effectivement, des études qui vont être faites, à savoir qu'est-ce qui priorise. C'était vraiment le discours hier, la priorité au secteur où il y a le plus d'enfants, c'est-à-dire le centre-ville. On nous a bien expliqué aussi que, bah, suivant les audits, il y avait apparemment... au prorata du nombre d'enfants, il y avait suffisamment d'écoles par rapport au prorata d'enfants, sauf que les écoles n'étaient pas au bon endroit.
Ils vont les déplacer.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Comme au Canada, on soulève mais il faut trouver le terrain, ça c'est le gros problème. Donc c'est ce qu'ils nous ont dit aussi, ils recherchaient les terrains, ils recherchaient des endroits pour construire de nouvelles écoles ou pour les rénover, donc c'était le compromis entre rénovation et construction. Ces constructions, donc les rénovations, il y avait plusieurs écoles où ils rénovent, et la différence, on a posé la question, la différence de budget entre une rénovation et une construction, c'est 10% pour en faveur de la rénovation. J'ai plus le nom de l'école, avec des bâtis en métallique.
Les écoles JEP, c'est ça?
Oui. Voilà, JEP 2.
Donc
là, ils démontent tout. Ils gardent juste le bâti métallique. Ils mettent une peinture feu résistance 3 heures. Mm-hmm. C'est une nouvelle peinture, apparemment, un nouveau protocole. Donc très bien.
Ça, c'est Pierre-Marie qui vous a dit
ouais,
ça.
Oui, tout à fait.
Pierre-Marie aussi.
Ça coûte 10% moins cher qu'une reconstruction totale. C'est ça le chiffre de 10%. Ouais, ouais.
Après, la question qu'on se pose, nous, au niveau du SEUM, c'est effectivement, on va avoir des bâtiments neufs, mais est-ce que quelqu'un a fait une étude sur la durée de ce bâtiment qui aurait été réhabilité? Parce que 10% moins cher à l'instant T, mais si c'est un bâtiment qui dure 30 ans et que si on avait démoli et reconstruit, que c'était un bâtiment qui aurait duré 60 ans, on voit bien que c'est pas le même impact. Ça, cette question, on l'a jamais...
Là, c'est étudié, effectivement. Mmh. Enfin, la réponse, si je peux la donner, c'est... Enfin, qu'ils nous ont donné, hein, en tout cas. C'est qu'ils ont étudié ça, effectivement, dans les meilleures conditions et que ça dure dans le temps. Première chose. Et deuxième chose, il devrait y avoir un suivi des travaux qui seront faits au fur et à mesure avec des deadlines, on va dire, tous les 5 ans la toiture, tous les 10 ans l'électricité et ainsi de suite.
Okay.
Mais un gros travail d'organisation,
de programmation,
sur un logiciel,
de suivi et tout ça.
Okay. Et là, il patauge un peu.
Michel.
Alors quand même, on vous sent chagrin hein, vis-à-vis de cette nouvelle majorité, mais vous avez bataillé avec les gens qui sont aujourd'hui aux manettes contre le projet d'un partenariat public-privé, hein, PPP, et Benoît Payan, qui était en opposition à l'époque, bataillait aussi face à ce projet-là, et finalement, à grand renfort de communication, une visite historique, dit-on, du président de la République, du chef de l'État, pendant 3 jours à Marseille, et dans ce plan, grand plan pour Marseille, un volet avec la création d'un établissement public pour piloter une PPP. Alors ça, c'est les termes de Benoît Payan lors du dernier conseil municipal en disant « on met en place un partenariat public-public, je présiderai cette société ». Plus de 1,2 milliard. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui est réussi, là, ce passage d'une PPP privée à une PPP publique, ou est-ce que c'est finalement secondaire à vos yeux?
Non, c'est très important. C'est une victoire d'avoir quand même fait pouvoir amener l'État et qu'on puisse emprunter de manière massive pour l'investissement et pour réhabiliter les écoles. Ça, c'est une grande victoire. Maintenant, il faut que ça aille plus loin. Il faut que dans ce plan, sur ce spline, là, sur cette société publique, enfin sur cette société d'aménagement, il faut voir quel va être son périmètre. Est-ce que c'est que sur les 174 écoles ou toutes les écoles? Il y a un flou, hein, on ne sait pas trop encore. On parle de que cette société peut faire de la maintenance, donc également. Alors si on fait de la maintenance et que c'est que sur ces 174 écoles, on voit bien qu'il va y avoir un décalage. Donc il y a encore beaucoup de flou autour de cette spline. mais c'est quand même ultra positif par rapport à ça. Mais il faut que ce soit vertueux, c'est-à-dire que investir un milliard sur la réhabilitation des écoles, bien sûr qu'on est pour, mais il faut en profiter pour conforter les services techniques de la ville, pour les reconsolider, pour les reconstruire, pour les reformer, pour qu'ils soient ensuite en capacité de maintenir et d'entretenir et de pouvoir suivre tout ce patrimoine qui va être remis d'aplomb. C'est refaire ça avec des sociétés privées, parce que ok, c'est un partenariat public-public parce que c'est l'État qui met, mais derrière, le mode de réalisation, comment vont être faits les travaux, c'est là où on peut parler de partenariat privé, on va dire, hein, si on va sur des marchés globaux de performance, ou si voilà. Donc il faut être très vigilant sur le mode de réalisation, c'est comment vont être faits les travaux ensuite, et nous on sera très vigilant pour que les services techniques puisse rejaillir sur la qualité au niveau des services techniques, qui puissent reprendre la main sur le patrimoine.
Il y a des inquiétudes aussi qu'il y ait un effet d'annonce, c'est-à-dire que par exemple là, il y avait déjà une rénovation de 10 écoles qui était prévue, 5 groupes scolaires financés déjà par l'État dans le cadre de l'ANRU, il y a des effets d'annonce, mais peut-être que ces programmes-là sont intégrés. Quelle est la part de nouveau vraiment et de...
C'est le flou.
C'est le flou, d'accord. Et des craintes, par exemple, c'est Séverine Gilles de la MPE 13 qui dit, est-ce que c'est un plan uniquement pour les écoles dans les quartiers difficiles? Il y a des enjeux au niveau de ces écoles, mais il y a d'autres écoles en difficulté hors de ces quartiers.
Alors là, je crois que Pierre-Marie Ganosi et Monsieur Pierrel, enfin toute l'équipe qui s'est construite autour de ce plan.
Monsieur Pierrel, qui est le conseiller en charge,
qui était directeur de cabinet, qui est devenu conseiller en charge sur le plan école. Eux, ils se focalisent effectivement, mais là c'est certain, ils se sont appuyés sur l'audit technique, hein, qui a eu lieu, qui avait été commandité par Jean-Claude Gaudin et qui a été réalisé et qui a été rendu sous le printemps marseillais. Donc ils se sont appuyés, ils ont vraiment fait une étude, ils se sont appuyés sur les urgences techniques. Donc j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Ce seront les écoles qui en ont besoin, qui auront. Enfin, on les connaît pas, mais on va vite les connaître et ils savent qu'on les attend là-dessus. Donc, j'ai pas d'inquiétude sur les 174 écoles.
Avant de donner la parole, Barbara, je voulais juste revenir sur justement la construction de ces nouvelles écoles, la manière dont étaient pensées. La ville parle beaucoup de concertation, de la communauté éducative, des agents, des parents, des enfants qui vont construire ces écoles. Est-ce que ça a été le cas du côté, est-ce que vous avez été, le SNUIPP a été convié, consulté sur ce volet-là?
Moi personnellement, je suis pas au courant, donc je vais pas ruser, hein. J'ai participé à d'autres concertations au niveau de la mairie de secteur, de la mairie du 1-7. Bon, concertation assez rapide et avec très peu de personnes, donc j'ai pas trouvé ça très constructif. Peut-être que Yannis, toi, tu peux
préciser effectivement sur la végétalisation de certaines écoles. Oui. Donc c'était la réunion d'hier a tourné beaucoup autour de ça. Parce que c'est vrai que c'était un des projets aussi. Effectivement, sur cette végétalisation, beaucoup de personnes ont été auditées, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, l'école qu'ils souhaitaient, les divertissements qu'ils souhaitaient, et aussi les agents. Monsieur Ganosi s'est effectivement félicité d'écouter tout le monde. On tourne autour d'une anecdote, mais c'est vrai que la végétalisation prend en compte, par exemple, de mettre des copeaux de bois autour des arbres pour éviter aux enfants de se salir dans la terre et tout ça. Sauf que ces copeaux de bois, on nous a expliqué, les enfants s'en servent pour s'égratigner, ils s'en servent pour jeter. Enfin, voilà. Alors, on nous a dit, mais c'est comme ça, c'était comme ça aussi à Paris, et ça, dans le temps, ça passe. D'accord, ça va passer. Après, voilà. Je sais pas. Moi, j'ai plein de questions, plein d'interrogations. On verra si ça passera.
Juste sur la désimperméabilisation des cours d'école, c'est pareil. On sent que c'est le financier qui pilote ça. Hein. C'est-à-dire que c'est l'Agence régionale de l'eau qui proposait cet appel à projet pour financer. De suite, le printemps marseillais s'est engagé là-dessus.
Okay.
C'était pas forcément une urgence. On l'a fait, tant mieux, s'il y a d'autres cours aussi. Mais les retours, je sais pas s'ils sont aussi positifs qu'il faudrait voir dans les écoles. Dans les écoles.
Les enfants sont contents. Ouais. C'est leur priorité, pardon.
Barbara. Oui, moi j'aimerais intervenir quand même sur le besoin d'écoles et de locaux scolaires, parce que on parle souvent des quartiers nord, évidemment, puisque ce sont des quartiers en très très grande difficulté, avec des populations qui sont extrêmement précaires, avec des services public complètement absent sur de nombreux territoires de notre ville. Mais je voulais aussi parler du centre-ville, là où je travaille, mais pas que. La particularité de Marseille, c'est quand même un centre-ville extrêmement populaire, quand même, et un manque vraiment énorme d'écoles dans le centre-ville. Il en manque, d'après l'enquête du SNU, parce que quand même ça fait des années que le SNUIPP travaille sur la question des locaux. On a fait de multiples enquêtes au moment effectivement du combat des PPP, mais déjà de avant, à la période où Charlotte Magri avait rappelé là, bon, bref, l'annonce dans Libération. Il manque à peu près une douzaine d'écoles dans le centre-ville, maternelles et élémentaires. Il y a des écoles qui sont dans des écoles anciennes, qui sont pas forcément en extrêmement mauvais état, on va dire, mais qui ont été dégradées et surtout faites avec des matériaux minables, c'est-à-dire que il y a des ruptures de pont thermique, des portes qui ne ferment plus, etc. Donc il y a besoin, surtout que je pense que vous savez que mon ministre, Monsieur Blanquer, a dédoublé des classes de maternelle, donc les grandes sections, les CM2, ensuite voilà, donc on a eu besoin de trouver des locaux pour faire des classes à 12 ou 13 ou 14 ou 15, et que du coup les écoles ont dû récupérer des salles de jeux, des salles de motricité, des bibliothèques, gymnase, des préaux, des gymnases, etc. Donc les écoles vivent dans des conditions abominable. Enfin, je veux dire, c'est la réalité des écoles du centre-ville, c'est aussi ça. Mais
on est à flux tendu, tout à fait.
On est à flux tendu partout, et nous parlons pas évidemment du manque de personnel, etc. Et donc, c'est vrai que on s'est vraiment battu pour ce plan 1, pour les écoles, et que donc les résultats sont pas vraiment à la hauteur de nos attentes. Donc j'espère que lundi les annonces seront à la hauteur. De la même façon, je me demande qu'est-ce qui va se passer pour ce plan. Si Macron n'est pas élu, j'espère que tout va être bordé, parce que si le printemps marseillais n'est pas élu la prochaine fois, si Macron n'est pas élu, qu'est-ce qui se passe? Comment, quel type de plan, quel type d'engagement pérenne on va avoir?
Ça, on en saura peut-être plus et lundi et vendredi prochain, date du retour d'Emmanuel Macron à Marseille. Une des annonces du président de la République début septembre, quand il a fait sa rentrée et lancé sa campagne à Marseille, c'était aussi de pousser la communauté scolaire à innover, à expérimenter et donc à lancer l'école de demain. Barbara, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ce dossier? Il y avait l'injonction de trouver 50 écoles pilotes pour cette expérimentation. Est-ce que vous pouvez nous présenter globalement l'idée et puis comment ça se passe?
Ah ben, l'idée, elle est très simple. L'idée dans la tête de mon ministre, de Blanquer, c'est de faire en sorte que l'école colle au plus près du privé. Pour faire les choses de façon un peu caricaturale, mais enfin, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'annonce qui a été faite le 2 septembre, alors que visiblement ni le rectorat ni l'inspection académique n'étaient au courant, c'était de proposer à 50 écoles un fonctionnement particulier où le directeur deviendrait un chef d'établissement, ce qui n'est pas le cas, puisque je rappelle à ceux qui nous écoutent que une équipe enseignante est composée d'un directeur qui n'est pas un supérieur hiérarchique, mais qui est un enseignant qui a une fonction de direction. Et un travail collégial et en équipe se fait dans les écoles ensemble. C'est vraiment un travail collectif. Donc la proposition de Blanquer et de Macron, c'est de faire en sorte que le directeur puisse avoir un rôle de chef d'établissement qui l'autoriserait à recruter le personnel enseignant, ce qui est évidemment complètement inédit et à l'inverse de ce qui fonctionne dans ma profession, puisque nous avons des barèmes, des mutations internes, départementales, etc., enfin, qui agissent a priori sur des règles quand même assez équitables, on va dire. Et là, il fait tout voler en éclats. Autre chose, les équipes pourraient décider des rythmes scolaires, c'est-à-dire aménager les horaires, donc peut-être travailler, finir plus tôt le soir, ou travailler en compensation le mercredi, ou le samedi matin, que sais-je, voilà. On aurait aussi le choix peut-être des animateurs qui travailleraient sur les écoles. Enfin bon, c'est quelque chose d'assez flou, puisque de toute façon, il n'y a pas un cadre réel à tout ça. Il y a beaucoup de mesures qui ont été lancées, annoncées, et on a vu des inspecteurs de l'éducation nationale et des conseillers pédagogiques se transformer en VRP de la République, en tout cas de notre ministre, et aller dans les écoles pour prêcher la bonne parole, en disant, y compris dans des écoles qui ne relevaient absolument pas de l'éducation prioritaire, leur proposer des... en leur disant, vous avez de beaux projets, donc vous pouvez complètement intégrer ce projet-là, venez donc avec nous. Et dans un premier temps, il y a des écoles qui ne se sont pas méfiées parce que, effectivement, on manque tellement de moyens, cruellement de moyens, que des projets supplémentaires, bon, il y a des enseignants qui se sont posés la question. Et en fait, nous, au niveau du SMIPP, on a évidemment creusé un petit peu plus le problème. La politique de Blanquer, c'est quand même une politique qui tend à transformer l'école en un management... sur le modèle de Taylor, mais vraiment à l'échelle du pays, c'est-à-dire que faire voler en éclats tous les principes égalitaires de l'école. On a creusé la question et des collègues des quartiers nord de Marseille ont lancé un appel au boycott de cette expérimentation.
Combien d'écoles ont signé? Une quarantaine, plus?
Non, un petit peu plus. À ce jour, on dépasse la cinquantaine. Okay. Et en fait, là, ça s'accélère parce qu'en fait, je pense que l'inspection académique est un peu aux abois puisqu'elle ratisse large. Hein. Elle ne va pas que dans l'éducation prioritaire. Elle a contacté des écoles du centre-ville, dont la mienne, par exemple, hein, en leur disant, mais si, vous pouvez participer. Donc, je pense qu'ils sont un petit peu aux abois quand même. Hein, parce qu'il y a des collègues qui sont, y compris des écoles qui sont revenues complètement sur la décision quand ils ont pris la mesure de ce qui a été proposé. Donc oui, il y a de la résistance. Il y a de la résistance et au SMIPP, en tout cas, on s'y emploie.
Vous avez le seum, hein, pour reprendre l'expression du collectif des écoles, en disant mais c'est un chantage moyen supplémentaire face à expérimentation, déréglementation.
Ah ben bien sûr. Enfin, il faut quand même dire que c'est ce que je disais en préambule, hein, c'est que les écoles ne sont pas méfiées parce que ça fonctionne déjà un peu comme ça. Hein. C'est-à-dire que pour avoir de l'argent, il faut faire des projets. Et plus les années passent, plus il faut augmenter les projets. Il faut gratter, hein, il n'y a pas d'autre mot, gratter des projets souvent en creux. Enfin, creux, pas par les équipes enseignantes, mais il faut baratiner quelque chose pour avoir des moyens. Hein. Voilà, et c'est pas forcément les plus beaux projets d'ailleurs qui ont de l'argent lorsqu'il y en a. Donc oui, grande méfiance.
Et au niveau de la ville, la réaction, toujours Benoît Payan, dernier conseil municipal, en disant bon, ben on n'est clairement pas Macron, Blanquer, c'est pas notre tasse de thé, mais on prend ce qu'il y a à prendre et de toute façon, on verra plus tard sur cette question de l'innovation pédagogique. C'est pas conforme au code des écoles. Voilà, on avance.
Ouais, bah c'est assez. Nous, on aurait apprécié au niveau du collectif. On aurait apprécié que cette position soit clairement dite auprès de l'État, que l'État fasse confiance à Marseille. Il y a aussi inversement, c'est il faut que Marseille fasse confiance à l'État. C'est pas le premier plan qu'il y a eu sur la ville de Marseille et ça c'est important. On aurait voulu que Benoît Payan soit un peu plus costaud face au président.
Cette émission se termine, c'est l'heure de la récré. On vous remercie tous les trois d'être venus débattre avec nous ce matin. Joyeux anniversaire une fois de plus à la Grenouille. Et le Ravi vous donne deux rendez-vous, samedi 23 octobre sur la FM pour une nouvelle grande tchatche. Et en novembre pour un autre anniversaire, celui du journal Pas Pareil, qui fêtera ses 18 ans en publiant son 200e numéro. À très bientôt.
Du 4/10 sur le 88.8, c'est la fête en live et en musique.
Radio Grenouille 88.8, FM, DAB+, et web.
11h33 sur les ondes de Radio Grenouille, en cette semaine de fête pour l'anniversaire des 40 ans de Radio Grenouille. Nous concluons ensemble notre matinée dédiée à la jeunesse, où nous avons rembobiné le temps, en commençant par la vie étudiante, pour finir sur la naissance. Jusqu'à midi, nous allons parler du projet d'un groupe de sages-femmes marseillaises et des environs, celui de la Casa de Naissance. Je m'appelle Clémence et j'ai le plaisir ce matin d'accueillir Mathilde Hawk et Gwenaëlle Rioux, deux des sages-femmes du collectif de la Casa de Naissance. Bonjour Mathilde, bonjour Gwenaëlle.
Bonjour. Gwenaëlle.
J'ai eu la chance de bénéficier de votre accompagnement pour la naissance de mes deux derniers enfants, Lou et Isia, comme ça qu'on s'est rencontrés. Avec toi particulièrement Mathilde. Entre ces deux naissances, j'ai commencé à enregistrer des accouchements. Parce que j'ai été fascinée par le caractère unique de ces moments-là et la force des récits. Et pour moi, la puissance de votre projet, c'est justement ça, de permettre la singularité de chaque naissance. Et avec nous ce matin, on a aussi Johan, qui est père de deux filles, Rosa et Suzy, qui a lui aussi été accompagné avec sa compagne Aude par vos soins, par vos mains. Bonjour Johan.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être présents ce matin. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le projet, ce qu'est la Casa de Naissance ?
Déjà merci de nous accueillir, c'est un vrai plaisir. Alors l'équipe de la Casa de Naissance, c'est une équipe de sages-femmes libérales qui propose aux parents qui souhaitent mettre au monde leur enfant de façon naturelle un accompagnement pendant la grossesse, un accompagnement au moment de la naissance et aussi un accompagnement dans les suites de l'accouchement pour soutenir la parentalité. Voilà, en fait, l'engagement de la Casa de Naissance, c'est de garantir à ses parents la présence d'une sage-femme en continu et disponible pour les soutenir dans cette épreuve, puisqu'on peut parler quand même d'épreuve au sens noble du terme, mais voilà. Donc ça s'appelle le one-to-one, avec, si on utilise un terme anglophone, une femme, une sage-femme.
D'accord. Peut-être vous pouvez nous retracer le chemin parcouru jusqu'ici.
Alors, la Casa de Naissance, ça a été créé à l'initiative d'un groupe de sages-femmes libérales il y a 10 ans. Ces sages-femmes libérales suivaient les femmes, les couples, pendant la grossesse et aussi quelques mois après la naissance, et avaient vraiment à cœur de soutenir la physiologie, mais aussi surtout les ressources des parents. Et les accompagner dans leur cheminement, et n'étaient pas là au moment de la naissance, les naissances qui se déroulaient dans les maternités. Et souvent, les couples avaient du mal à développer leurs ressources, à être soutenus le jour de l'accouchement. Et voilà, elles ont eu envie de créer d'abord une maison de naissance, et puis finalement, ça a été la Casa de Naissance. Et donc voilà, c'est né de ce travail collectif de sages-femmes qui avaient vraiment à cœur de développer... autre chose, et puis d'être là à tous les moments pour soutenir les ressources des parents.
Alors justement, tu m'as dit avant l'émission que ce n'était pas une maison de naissance, au sens juridique du terme. Peut-être tu pourrais nous expliquer, faire la distinction entre ce qu'est une maison de naissance, si c'est, tu m'as parlé d'un plateau technique.
Oui.
Je te laisse préciser.
Alors, maison de naissance, c'est tout nouveau en France. Ça existe dans de nombreux pays depuis de nombreuses années. C'est vraiment des structures tenues par des sages-femmes qui sont à proximité ou dans les hôpitaux. En France, c'est vraiment au cœur des hôpitaux, à côté, attenant à une maternité. Depuis quelques années, ça a été expérimenté en France. Et l'idée, c'est vraiment de proposer un suivi global aux couples pendant la grossesse, le jour de l'accouchement et dans la prénaissance. Et les couples viennent mettre au monde leur bébé dans la maison de naissance et ensuite rentrent chez eux et ont un suivi par la sage-femme qui se déplace à domicile. Voilà, la différence ici avec un plateau technique, c'est que nous avons signé une convention avec la maternité et nous accompagnons les couples au moment de la naissance dans une salle dédiée avec un environnement vraiment propice à soutenir la physiologie et au cœur de la maternité, vraiment, avec dans les salles d'accouchement. Et après, le couple, la femme, le bébé, sont hospitalisés dans la maternité et sortent après à domicile. Et puis, on peut continuer le suivi après. Voilà un petit peu la différence.
Je profite du coup qu'on parle de tout ça. Lors de la naissance de ma première fille, Rosa, vous étiez installée à la clinique donc de la Casamance à Aubagne.
Oui.
Et lors de la naissance de ma deuxième fille, Suzy, vous avez déménagé à l'hôpital public d'Aubagne. Du coup, on se demandait qu'est-ce que ce changement, déjà pourquoi ce changement, et qu'est-ce que ça vous a apporté ou qu'est-ce que ça apporte de plus aux parents ou à vous comme équipe de sage-femme d'être dans une institution publique.
Alors, effectivement, l'aventure de la casa de naissance a pu commencer grâce au soutien et à la confiance de l'équipe de la maternité de la Casamance, qui est située à Aubagne. Il se trouve que, après quelques années à travailler là-bas, les équipes de la Casamance et de l'hôpital public d'Aubagne ont fusionné. Bon, en gros, la maternité de la Casamance a fermé. Et du coup, on a rejoint l'équipe du centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne, qui, pareil, nous a fait un très bel accueil et avec l'équipe avec laquelle on travaille vraiment dans de très bonnes conditions.
Peut-être aussi rajouter que la différence entre un plateau technique et une maison de naissance, c'est qu'on vraiment le suivi de l'accouchement, les naissances se déroulent vraiment au sein de la maternité, ce qui permet une grande proximité avec l'équipe de la maternité classique et qui vraiment permet un échange des pratiques, une confiance aussi, d'établir un lien de confiance avec l'équipe qui permet d'être les plus proches possible des besoins et des couples. Voilà. C'est vraiment très enrichissant.
C'est en effet ce que j'ai pu sentir lors de l'expérience de naissance de mes deux filles, une vraie coopération entre votre équipe de la casa de naissance et toute l'équipe de sage-femme, de la maternité.
Et alors, nous, on aime beaucoup parler de travail en équipe. Il y a d'abord l'équipe des parents, bien sûr, avec leur enfant à naître ou qui est né. L'équipe de la casa de naissance qui vient soutenir ses parents dans leur choix de mettre au monde leur bébé naturellement. Et nous, notre travail n'est possible que grâce à l'équipe que nous formons avec la maternité d'Aubagne, qui nous garantit de la sécurité médicale quand c'est nécessaire.
Et justement, en parlant de ça, vous avez nommé accouchement naturel ou physiologique. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur qu'est-ce que ça veut dire, en fait, un accouchement naturel, un accouchement physiologique, ou qu'est-ce que vous défendez aussi, du coup, par ce choix-là?
Alors, essentiellement, il est question de bénéficier ou pas de la péridurale, sachant que dans le modèle français, 80% des femmes accouchent avec une péridurale. Voilà, il reste 20% des autres femmes, des autres couples qui désirent mettre leur bébé au monde autrement.
80% donc.
80% dans le modèle français, oui, tout à fait.
Qui est différent d'autres pays.
Ah, complètement, oui, d'accord. Oui, on n'a pas du tout les mêmes chiffres, y compris dans les pays avoisinants européens ou dans le reste du monde.
Tout à fait.
Et quel sens ça a pour vous? Est-ce que vous voyez des raisons pour que la France ait des chiffres si haut?
Alors, c'est le système de soins qui veut ça. Nos courageuses collègues sages-femmes qui travaillent dans les structures classiques ont plusieurs patientes à gérer en même temps. Et c'est très compliqué dans ces conditions-là de proposer le soutien nécessaire quand les parents traversent ce moment intense de la naissance naturelle. Voilà. Nos collègues sages-femmes qui sont d'ailleurs nous sommes en grève aussi actuellement et en soutien de leur mouvement pour dénoncer des conditions de travail très difficiles et des rémunérations largement insuffisantes au vu du statut médical dont nous bénéficions. Voilà, donc on en profite pour dire qu'il y a une grosse manifestation demain à Paris,
demain, ouais.
Voilà, pour pouvoir faire avancer les choses. Voilà, c'est vraiment une population qui est professionnelle, qui est en grande difficulté, hein, pas comme beaucoup d'autres professions médicales ou paramédicales.
Et vous vous sentez privilégiée ?
Oui,
on se sent privilégiée, oui, effectivement.
Alors on a la chance de pouvoir soutenir, accompagner les couples sur un temps très long, donc très enrichissant pour nous et je pense soutenant aussi pour les parents. Et puis vraiment au moment de la naissance, de pouvoir être disponible et en souci d'une seule femme, d'un couple, d'un bébé, c'est vraiment des conditions de travail très privilégiées. Je reviens peut-être sur votre question sur le pourquoi de la physiologie. Je crois que ce qui est vraiment très enrichissant et important pour nous, c'est de pouvoir soutenir les ressources propres de la femme dans ce moment si intense, si puissant, comme tu as décrit Clémence tout à l'heure. Et toujours, ça va être soutenir, peut-être guider, et puis parfois laisser juste s'exprimer en fait les ressources des couples. Et ça peut se faire que dans un environnement calme, intime, privilégié. Et c'est un peu ça qui manque en fait dans les maternités, quoi. C'est d'avoir cet espace, mais avoir le soutien aussi d'une personne qui va comprendre, décrypter, pouvoir soutenir. Voilà, et ça c'est pas possible dans les conditions actuelles de travail.
Ouais, donc votre accompagnement est vraiment un choix de vous rendre complètement disponible à ce moment-là, au couple qui est là.
Ouais. Et être présent et être dans l'accueil et dans une temporalité vraiment particulière, différente, ce qui est pas évident dans le monde actuel.
De sortir de la temporalité timée, millimétrée, chronométrée et plus organique du coup.
C'est une expérience extraordinaire, c'est une chance de laisser les bébés venir au monde et laisser les femmes mettre leurs bébés au monde avec le temps dont elles ont besoin.
Et dans mon expérience, j'ai trouvé assez fascinant, c'est que quand il y a besoin de soutien, de conseils, vous êtes très présente. Et dès que vous pouvez vous effacer, laisser la place au couple, à la femme, à l'instinct, au moment présent, vous vous éloignez vraiment. Vous restez présente en cas de besoin, mais il y a un effacement de votre part qui est jaugé à la perfection.
Ah oui, nous, on observe. Mmh. On observe que les femmes traversent le mieux possible ce moment-là et si besoin, on vient les soutenir.
On va écouter un petit morceau avant de recommencer. C'était le retour des grues de la bande originale du peuple migrateur de Bruno Coulet.
Donc nous sommes toujours à l'antenne, donc avec Mathilde et Gwenaël du projet de la Casa de Naissance à Aubagne. Donc juste avant ce petit break musical, vous parliez donc de ce moment comme un événement, un passage, je ne sais plus comment tu l'avais nommé, Gwenaël.
Une épreuve.
Une épreuve. et tout à l'heure, vous avez parlé de à la fois soutenir, accompagner en donnant des ressources, mais à la fois, et Clémence, tu l'as nommé aussi, comment s'effacer pour aussi laisser la place à la femme de trouver ses propres ressources, sa propre puissance, ses propres manières de faire. Et j'ai envie de revenir sur ça, parce qu'ayant vécu donc deux accouchements accompagnés par votre projet, c'est vraiment ça que j'ai compris dans le projet en le vivant. C'est vrai qu'au début, moi, quand je pensais accouchement, je me suis dit bon, ben, on va dans une salle, on est pris en charge, et les gens vont faire ça, ils vont aider la femme à faire ça. J'avais aussi cette image, j'ai eu beaucoup de témoignages de papas qui sont dans le couloir et qui attendent que l'enfant naisse. Et c'était pas trop mon désir. Et quand j'ai commencé à rentrer dans le cursus de la Casa de Naissance, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est de sentir vraiment ça. De ok, on va vous transmettre des choses. Mais c'est vous qui allez vivre ça. C'est la femme qui va vivre ça. C'est l'homme qui va être en soutien à ça. Et de voir comment, enfin, vraiment votre accompagnement nous a permis de trouver nos propres ressources. Et c'est ça que j'ai trouvé fabuleux. Du coup, voilà, je suis curieux de savoir comment vous faites ça ou.
Alors, il faut savoir qu'il y a quand même, on l'a un peu dit tout à l'heure, tout un travail. Pendant la grossesse, hein, donc on assure le suivi médical, mais aussi on assure ce qui s'appelle la PNP, la préparation à la naissance et à la parentalité, donc la préparation à l'accouchement. Et on implique effectivement donc le deuxième parent, puisque on est à une ère où le deuxième parent est parfois une deuxième maman. Et on soutient, on accompagne les parents pour que vraiment ils puissent être prêts le plus possible ce jour-là à traverser ce moment-là. Il y a un gros travail pendant la grossesse, mais il y a aussi un soutien dans les suites de l'accouchement, dans les semaines et les mois qui suivent, pour que les parents puissent justement explorer, découvrir leurs compétences de nouveaux parents. Mmh. Voilà.
Puisque un accouchement, ça s'apprend pas, ça se vit, ça se traverse. On peut apprendre des techniques, mais et pour témoigner aussi justement, donc tout le cursus, donc il y a cette préparation. On était en groupe aussi, je me souviens, en groupe de parents, donc. Pour moi, ça a été aussi une grande richesse de pouvoir échanger avec d'autres parents sur nos angoisses, nos peurs ou nos excitations, nos joies. Donc, cet aspect-là a été super. Et très vite aussi, vous êtes combien ? Vous êtes 8 dans le projet ?
Oui, alors on est un groupe de 10 sages-femmes libérales.
10 sages-femmes. Ouais. Et donc, la préparation à l'accouchement, je me souviens l'avoir fait avec une des sages-femmes. Mais très tôt, on a rencontré toute l'équipe. Puisque le jour de l'accouchement, on ne sait pas sur qui on va tomber. Mmh. Et tout ça, c'est vrai que ça, je me souviens moi que ça nous a permis de vraiment construire une confiance, un confort, de se sentir à l'aise, de connaître le lieu de la naissance, pour ensuite arriver. Et je me souviens d'une phrase de vous qui disiez, un bon accouchement, le plus on est dans la détente, dans la confiance, dans la relaxation, le mieux le passage peut se faire. Et voilà, pour témoigner, je crois que moi, c'est vraiment ça, qui m'a le plus marqué, de vraiment construire cette confiance, construire cette d'enlever les appréhensions liées à la naissance et à ce moment-là.
Et vous préparez aussi les familles à l'imprévu,
ouais, voilà.
Aux situations où ça.
Alors l'imprévu, et je crois que c'est ça l'idée de la préparation, c'est vraiment aider les couples à cheminer dans toutes les sensations, les modifications pendant la grossesse et être prêt à s'adapter. Le jour de l'accouchement, à ce qui va se passer, à ce qu'ils vont vivre. Et je crois que l'idée aussi, et puis c'est la motivation beaucoup des couples qui viennent nous voir, c'est de se sentir acteur de ce qui se passe, se sentir présent à ce qui va se passer et pouvoir accueillir sereinement leur bébé. Et je crois que c'est ça vraiment notre rôle et que la naissance soit naturelle ou pas, en fait, c'est vraiment que les parents sentent qu'ils ont fait de leur mieux et qu'ils sont présents. Le jour J et qui vont faire développer leurs propres ressources. Et c'est un peu ça notre rôle pendant la grossesse, dans la préparation, le jour de l'accouchement, mais et aussi dans la suite, dans la découverte du bébé, la rencontre. Voilà.
Tout en ayant aussi beaucoup de respect d'intégration avec tout le côté médical. Parce que moi, je me souviens au début d'arriver avec mon idéal de naissance physiologique. Et j'avais un peu une idée que, bon, si ça finissait en césarienne ou en péridurale, ce serait un peu un échec. Et je me souviens très tôt comment vous l'aviez posé. Le médical est là vraiment comme un soutien. C'est
comme une chance.
Comme une chance même. Et ça m'a changé aussi tout mon regard sur ça. Et c'était vrai, quelque chose d'assez important aussi.
C'est vrai que quand les bébés naissent simplement, naturellement, dans notre salle, on est content et on sait faire. Le plus délicat, c'est que les parents acceptent qu'il y ait besoin d'une aide médicale quand ils ont des projets forts d'accouchement naturel. Mais c'est intéressant aussi qu'ils soient prêts à d'autres scénarios, parce que parfois, les bébés choisissent de naître ailleurs qu'à la maternité.
C'est quelque chose. Donc, pour ma première fille, donc on était prêt à partir à la casa de naissance. Du coup, toutes nos affaires étaient dans la voiture. Sauf que le moment de l'accouchement, l'accouchement s'est déclenché et en une demi-heure, ma femme, la maman Aude, a eu le col ouvert à 9 et on n'a pas pu partir de la maison. Et là, branle-bas de combat, il y a une des sages-femmes de l'équipe qui est arrivée et l'accouchement a eu lieu à la maison. Et c'est vrai que c'est assez fascinant, vous parlez d'une naissance, pour moi, c'est ce qui nous reste dans notre humanité d'imprévu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas planifier, on peut venir avec tout un tas d'idées, d'envies, mais en fait, il se passe ce qui se passe. Et moi, j'ai vraiment appris ça ce jour-là, donc on s'est retrouvés à la maison. C'était assez angoissant au début, pour nous tous. Et la sage-femme est arrivée, et c'est vrai que c'était vraiment très rassurant d'avoir sa présence et de nous accompagner. Tout s'est passé comme si on était à la maison de naissance, donc on a eu beaucoup de chance, on n'a eu aucun problème. Mais en effet, voilà, la place à l'imprévu, quoi.
Imprévu et puis un moment de vérité, quoi. Ouais. Vrai. On peut pas se défausser ou voilà, on doit être présent à ce qui se passe, quoi.
Ouais. Et accompagner ça.
Moi j'aimerais savoir, est-ce que vous vous habituez aux accouchements, aux naissances?
Ah, mais c'est jamais les mêmes. C'est jamais les mêmes. Non, c'est toujours une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Justement parce que les parents expriment des choses qui leur sont propres, les parents, le bébé, et non, c'est jamais la même histoire.
Ouais, c'est toujours singulier et puis c'est... Moi, je crois que c'est ça qui me plaît, en fait. C'est pouvoir assister, alors soutenir, laisser s'exprimer, mais ce moment si intense, puissant qu'est la naissance et si singulier de pouvoir toujours observer des choses différentes, des ressources différentes. C'est très créatif, en fait, comme moment. Et c'est vraiment...
Et d'une intensité rare. Je crois que dans notre société, on vit plus grand-chose avec une telle intensité que ces naissances naturelles.
Un mot qui nous était venu après les accouchements, c'était la notion de sauvage. C'est ce qui nous reste d'animal, de sauvage, d'instinctif.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça très beau dans votre projet de pouvoir se reconnecter à ça aussi.
Au niveau votre projet est vraiment collectif. Peut-être vous pourriez nous parler de comment vous organisez, comment vous travaillez ensemble, la place que ça prend aussi. Je me souviens, Mathilde, que tu m'as dit une fois. Nos conjoints n'en peuvent plus.
Ah, ça.
Voilà. Ouais. Comment vous organisez tout ça?
Alors, on a donc au niveau du suivi pour les parents, ça va être vraiment un suivi par une sage-femme référente pendant la grossesse, tout ce qui est consultation médicale, préparation à la naissance et à la parentalité. Dans le post-natal, c'est pareil. Le couple va être suivi par la même sage-femme référente pour ce qui est vraiment suivi de la naissance du bébé et puis la suite. Et le jour de l'accouchement, ça va être une des 10 sages-femmes qui est d'astreinte. Donc, on a un planning d'astreinte. Et le couple, lors du début de travail, appelle la sage-femme d'astreinte ce jour-là.
Quelle que soit l'heure de la journée.
Quelle que soit l'heure de la journée, de la nuit. Voilà. Et donc, la sage-femme se déplace soit au domicile pour démarrer, soit à la maternité avec le couple pour le suivi. Ça, c'est vraiment au niveau de l'opérationnel. Et puis après, derrière, il y a tout un travail collectif. de partage des pratiques, d'évolution aussi de nos pratiques, d'échanges, et puis de travail organisationnel.
De coordination avec l'équipe de la maternité aussi, avec qui on travaille vraiment main dans la main, j'ai envie de dire.
Donc c'est un travail qui est vraiment très enrichissant et en même temps qui est aussi
très prenant, très engageant.
Voilà, donc on a quand même des familles, des conjoints très compréhensifs et très présents.
Qui soutiennent aussi ces valeurs-là.
Voilà, ces valeurs-là et qui en comprennent le sens. Voilà. Et puis ce travail, est, voilà, pour avoir la même philosophie de pratique, il y a besoin de ce temps collectif qui est indissociable de notre pratique.
Voilà. C'était quand la dernière naissance à la CASA?
Ah, ben c'était, dimanche, on a eu deux naissances. Et cette nuit?
Cette nuit, la journée dernière.
Ouais. Voilà, il y en a eu trois, là, de belles naissances.
Peut-être pour finir, vous pourriez donner les noms de vos collègues sages-femmes?
Ouais.
Alors, vous nommez toute l'équipe?
Alors, on est répartis sur plusieurs cabinets à Marseille et à Aubagne et à La Penne-sur-Yvonne. Mmh. Et donc, il y a au départ Odile Tagawa, mais qui maintenant est à la retraite, Myriam Banque, Laurie Ferranti, Wallis Sauvé. Donc, ça, c'est pour le cabinet de La Plaine. Ensuite,
Cécilino
qui travaille avec Mathilde. Et il y a
Anna-Maria
Laurent, Mathilde Pionnier, Magali
Boyer
qui est à Aubagne, et Kim, notre dernière recrue, Kim Laroutis, qui est installée maintenant à La Penne-sur-Yvonne.
À Plan de Cuc.
Ah, pardon. Désolée, Kim.
Une grande équipe. Et toute l'équipe de la maternité aussi.
Et on a toute l'équipe de la maternité.
Qu'on salue aujourd'hui.
Voilà. Et qu'on remercie.
Merci beaucoup. Vous êtes joints à nous ce matin pour parler de la naissance. Il est l'heure de nous quitter. Belle suite à votre projet.
Merci.
Je ne pense pas vous retrouver pour une quatrième, peut-être. Peut-être Johan vous retrouvera.
On verra.
En tout cas, tout de suite, on retrouve Le Nez Dehors, l'émission de Margot et de ses invités. Bonne journée à tous et bon anniversaire à la grenouille.
Bon anniversaire.
Merci. Bon anniversaire à la grenouille.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante de amigo, cuidado por te quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Te choro uma lagoa e ela que vou me baiar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Sort de son étang pour fêter ses 40 ans.
Bonjour à tous et à toutes. Il est midi et 2 minutes. Vous écoutez Radio Grenouille. Cette semaine, nous fêtons les 40 ans de la grenouille et des radios associatives. Après une matinée consacrée à la jeunesse des étudiants aux nouveau-nés, on continue avec le magazine Le Nez Dehors. C'est Margot au micro, à mes côtés Nelly. Salut Nelly.
Hello Margot.
Et comme depuis ce matin 9h, c'est Djilali à la technique. On est ensemble jusqu'à 13h et nos invités pour ce mercredi. En fin d'émission, nous recevrons Bernard Aubert, directeur artistique de la Fiesta des Suds, qui fête cette année non pas ses 40, mais ses 30 ans. Pascal Messaoudi, créateur sonore et compagnon de longue date de la radio, est parmi nous pour ce midi. Salut Pascal.
Bonjour Margot.
Avec Nelly, vous avez récemment tous les deux réalisé des promenades sonores en Provence verte. On en parlera en milieu d'émission. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Liliane Dokoui et Eldina Koné. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Liliane, Eldina.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux assistantes sociales à l'Institut Paoli Calmette, centre de lutte contre le cancer régional. Et on vous reçoit dans le cadre de la Journée nationale des aidants. Les aidants, c'est 11 millions de personnes en France qui veillent sur un parent, un enfant ou un conjoint malade. Ils sont parfois aussi eux-mêmes malades, comme on le verra. Cette journée est faite pour leur donner de la visibilité et de la voix, pour parler de leur place et de leur rôle. Avant qu'on vous entende et qu'on discute de tout ça, je vous propose de réécouter un extrait d'un podcast que vous avez réalisé avec Nelly l'année dernière dans le cadre aussi de cette journée des aidants. Donc on va entendre des voix, des témoignages et on se parle après.
Les aidants, dits naturels ou informels, sont les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, notamment le nursing, les soins, l'accompagnement à la vie sociale et au maintien de l'autonomie, les démarches administratives, la coordination, la vigilance permanente, le soutien psychologique, la communication, les activités domestiques.
Je me retrouve très bien parce que tout ce qui a été cité, c'est en réalité tout ce que je vis au quotidien, quoi. Et c'est ce que je pratique éventuellement au quotidien. Aidant, pour moi, c'est naturel. Je le fais de manière naturelle, c'est spontané. D'ailleurs, pour vous donner un petit exemple, j'ai pas mal de personnes de mon entourage qui trouvent que je suis assez dynamique, je ne montre jamais que ça ne va pas, même quand ça va ou quand ça ne va pas. Je suis égale à moi-même, en fait. C'est vrai que par moments, oui, je vais souvent fondre auprès du médecin traitant où j'essaie de sortir, mais ça, j'évite de le faire, par exemple, devant les filles. Mais sinon, je me reconnais totalement dans tout ce qui a été cité dans la définition.
Moi, je m'appelle Cécile Bagné-Bratisevic. Je travaille à l'IPC depuis 15 ans. Je suis gériatre de formation. Quand on s'occupe de son parent malade, on a l'impression que c'est un rôle classique, normal, qu'on ne peut pas y couper. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, ils disent que c'est facile. Il y a une échelle qu'on fait parfois, qui s'appelle le fardeau de Zarit, où on demande aux aidants, est-ce que c'est lourd pour vous de vous occuper de votre parent malade? Et en fait, les gens minimisent complètement leur aide en disant, mais non, c'est facile, c'est normal, ça ne me coûte pas. Alors que derrière, les conséquences sont importantes pour les aidants. On sait que les aidants naturels ont plus de pathologies que les personnes lambda. C'est-à-dire, quand on aide quelqu'un, eh bien, on est plus sujet à être soi-même malade. C'est pour ça qu'il faut absolument prendre soin des aidants et les entourer eux-mêmes pour qu'ils soient le plus aidants, justement, auprès du patient. Ça passe par le côté juridique, c'est-à-dire qu'il y a des arrêts de travail éventuels, il y a des facilités pour venir aux consultations. Un aidant peut s'adresser à un médecin sans souci, avoir des consultations psychologiques prises en charge parce qu'il est l'aidant de quelqu'un qui est malade également.
Alors en fait, on a constaté dans le cadre de nos entretiens qu'on rencontrait beaucoup de patients qui s'occupaient également de proches à leur domicile et que c'était un frein. Ça pouvait être un frein dans le parcours de soins. C'est vrai que Les gens vont se poser la question de mais qui va s'occuper de mon mari ou de ma femme si je suis hospitalisée. Moi, je peux pas aller en maison de convalescence si personne ne s'occupe de mon conjoint. Donc, on a décidé de faire une enquête auprès des patients de l'IPC et il s'est avéré que 21% des patients sont aussi des aidants et que parmi ces 21%, 57% d'entre eux vivent sous le même toit que le proche qu'ils aident. Donc, on connaît les conséquences de l'aide apportée. On sait que c'est un facteur qui fragilise le parcours de soins. Il y a intérêt, du coup, à travailler sur cette question-là et donc à repérer les patients le plus tôt possible pour pouvoir les accompagner et les orienter vers le service social, vers les psychologues, vers les infirmiers coordinateurs pour consolider, en fait, leur parcours de soins et faire en sorte que leur santé soit une priorité. Voilà, donc aujourd'hui, il y a ce que j'appelle le patient aidant.
Je m'appelle Mandy, je vis à Marignan, je suis anglaise d'origine, mais je suis française par adoption, et je suis mon traitement ici, PC, ça fait presque 3 ans et demi, pour un cancer de poumon. Et qu'est-ce que je peux dire? J'ai mon mari malade aussi, ça c'est un peu dur à arranger des rendez-vous et tout ça, parce que je dois être avec lui pour l'habiller le matin avant que je pars et faire attention, quoi, que lui, il est en forme, qu'il peut sortir, boire son petit café tranquille. Parce que si, quand je suis ici pour le traitement, si je sais qu'il est un peu fatigué, on a ça toujours qui trotte. Parce que lui est malade, moi, je me force d'être mieux pour lui. Parce que qui va le faire? Les enfants, ils ont tous le travail, ils aident beaucoup. Si j'appelle, ils viennent tout de suite et tout ça, mais c'est pas à eux de le faire. Voilà, ça, j'ai fait comme je peux et j'avance. Et des fois, on a besoin de parler avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec la famille. Qu'on peut vider le sac, quoi. Voilà, on peut dire des gros mots, ou dire des choses, des fois, c'est pas tout gentil sur la personne qu'on aide. Parce que des fois, on a besoin que ça sorte. On a le petit cabinet, là, qu'on peut aller pour prendre comment on appelle ce truc, là? Les petits pliants et tout ça. On peut appeler. Ma belle-fille aussi, je peux le dire à elle. Mais je vais l'apaiser. Elle est déjà, elle a eu le leucémie. Je vais l'embêter avec ça. Et c'est bien que si quelqu'un, il propose l'aide, de temps en temps. Pas qu'on a besoin toujours de demander.
Vous venez d'écouter un extrait du podcast « Être aidant, on en parle » réalisé l'année dernière par Radio Grenouille avec l'Institut Paoli Calmette. Et la dernière personne que vous avez entendue, Mandy, est avec nous par téléphone. Bonjour Mandy.
Bonjour.
Bonjour Mandy, bah, vous allez être avec nous pendant ce petit moment qu'on va passer ensemble. Merci d'être là. On vous posera quelques questions. Je vais commencer par une question à Liliane sur la façon dont on a fabriqué ça. Tu t'es adressée à nous, on se tutoie parce qu'on a quand même travaillé ensemble. Dans des conditions d'ailleurs que je voudrais rappeler, hein, parce que tu es venue nous solliciter l'année qui a précédé le confinement. Mm-hmm. Puis voilà, on avait tout un agenda, tout un parcours de travail qui était écrit. Et puis, badaboum, les choses ne se sont pas du tout passées comme nous l'avions prévu. Ça a été assez compliqué, d'ailleurs, hein, de faire les choses.
Oui, c'est vrai. Mais donc déjà, bonjour à tous et merci à Radio Grenouille de nous recevoir aujourd'hui.
Avec plaisir.
Donc, oui, c'est vrai que ça a été compliqué, que ce qu'on avait programmé a dû être remis en forme. Mais c'est vrai que quand il y a eu la pandémie, il y a toute une nouvelle organisation qui a été mise en place.
C'est ça.
À l'IPC, les aidants, les proches ne pouvaient plus être accueillis. Mm-hmm. Donc voilà, parce que les patients sont des patients fragiles. Mm-hmm. Donc il y a des douanes qui ont été mises en place. Voilà. Donc voilà, effectivement, ça a été un petit peu compliqué, mais nous sommes quand même parvenus à sortir ce podcast pour la Journée nationale des aidants
l'an dernier.
Ouais. Dans lequel podcast, dans lequel vous avez vraiment souhaité que les personnes concernées puissent prendre la parole. C'est votre cas, Mandy.
Oui.
On vous salue tout particulièrement parce que je crois que votre situation familiale s'est transformée et on vous envoie beaucoup de bonnes ondes.
Merci, j'ai besoin.
Eh oui, on sait que vous avez besoin, donc on vous les envoie. Moi, j'ai fait une très belle rencontre avec vous. Vous avez une vitalité, une vie qui est voilà, qui s'exprime. On l'a entendu hein, dans cet extrait. Vous avez été aidante et vous êtes vous souffrez vous-même d'un cancer et vous êtes dans voilà une énergie, un témoignage très constructif à votre endroit. Est-ce que ce podcast, est-ce que cette petite participation a produit quelque chose chez vous?
Oui, ça, c'était bien de parler, voilà. Un peu vider le sac, quoi, avec quelqu'un que je ne connaissais pas avant.
Oui.
C'est vrai, et si ça peut aider les autres. Et j'ai un caractère que j'adapte vite la situation,
ouais.
Comme le Covid. Bon, la dernière année et tout ça, pour moi, c'était bon, difficile, mais pour mon mari, c'était encore plus dur.
Mm-hmm.
Parce que pour sortir les masques de ci et de là, les collègues, quand ils venaient, j'ai faisais à distance, lève les mains. C'était pas facile.
Mm-hmm.
C'était pas facile. Non, non.
Liliane, voilà. Ça, c'est quelque chose que vous rencontrez, cette difficulté, tous les jours. Tu parlais du contexte de l'hôpital. On navigue à vue, on ne sait pas. Et effectivement, la question des aidants qui sont très importants dans le parcours de soins,
oui.
Du coup, est drôlement fragilisée, là.
Mais c'est vrai que avant on organisait les sessions la journée des aidants sur site à l'IPC, on pouvait du coup aller à la rencontre des patients et de leurs proches hein à IPC 2 qui est le lieu de consultation. On y avait des partenaires qui étaient là et on pouvait voilà les rencontrer et avec le Covid tout a été réorganisé, les consultations à distance, ça a été très violent pour les patients et pour leurs proches, surtout qu'on sait qu'ils jouent un rôle essentiel dans la prise en charge. On sait que ils vont jouer un rôle tout le long du parcours de soins. Il y a une étude qui a été faite par l'Observatoire sociétal de la Ligue contre le cancer qui s'appelle Les aidants combattants silencieux du cancer qui fait parfaitement état des conséquences de l'aide apportée aux proches qui nous éclaire aussi sur les spécificités de l'accompagnement des aidants auprès des personnes atteintes du cancer.
Mmh.
Donc là on a vu hein, Aldina aussi qui est ma collègue assistante sociale pour en parler, on a vu des aidants quitter leur domicile pour aller pour ne pas du coup
contaminer
la peur de contaminer. Effectivement, j'ai en tête une patiente qui vivait avec sa fille qui est infirmière. Sa fille a quitté le domicile hein, parce que voilà, elle avait peur de contaminer sa mère et on s'est retrouvé avec des, enfin les patients se sont retrouvés seuls et c'était des choix qui étaient compliqués. Eldina, tu peux aussi.
Où est-ce qu'on en est, Eldina, de tout ça?
Oui, enfin, je voulais rebondir du coup
Bien sûr.
Ce que Liliane disait. Il y a eu ces situations-là où des aidants étaient obligés de quitter le domicile. Mais on a pu voir des situations inverses où justement les patients aidés venaient s'installer chez l'aidant. Et c'est vrai que ça a engendré un petit peu des bouleversements dans le quotidien de ces aidants qui ont dû adapter le domicile pour pouvoir accueillir la personne aidée, adapter leur mode de vie aussi pour pouvoir se consacrer du coup à leurs proches en fait. Hein. Et c'est vrai que voilà le Covid du coup a pas mal fait bouger les choses en tout cas chez les aidants, c'est ce qu'on a pu constater sur notre façon
pratique,
de travailler aussi.
Il y a une enquête qui a été réalisée par les médecins de l'IPC qui parle de la souffrance psychologique des patients en charge pour un cancer pendant la pandémie.
Mmh.
Il y a 4000 patients qui ont reçu un questionnaire relatif sur leur vécu pendant le confinement, leur anxiété, et le stress post-traumatique. Et les réponses reçues ont permis de démontrer que 30% d'entre eux ont eu leur anxiété qui était élevée. Et pour 14% d'entre eux, le stress post-traumatique important.
Mmh.
Voilà, donc c'était,
ça a été compliqué. Ouais. Ouais. Il fallait toujours un peu.
Et est-ce que là justement, est-ce qu'il y a un rythme qui se trouve? Comment est-ce que les aidants peuvent retrouver le chemin de l'hôpital de façon plus facile? Est-ce qu'il y a des réponses qui ont été apportées? Comment on arrive à se projeter là? C'est quand même très très compliqué puisqu'on arrive à se projeter à peu près nulle part hein, à l'heure actuelle.
Oui, c'est pas facile, c'est vrai. Après là, pour le coup, par rapport à la mise en place du pass sanitaire, c'est vrai que ça facilite un petit peu l'accès à l'hôpital pour les accompagnants et du coup pour les patients. Mais ça reste flou parce que je pense que ces aidants préfèrent quand même prendre un petit peu de distance par rapport à l'hôpital. Ils aimeraient bien les accompagner, mais il y a aussi ce risque-là de contagion, enfin de par rapport à la situation sanitaire. Qui est toujours un petit peu flou.
Après, il y a quand même une antenne de vaccination qui a été ouverte pour les salariés, également pour les patients. Ça a rapidement été organisé à l'IPC. Et aujourd'hui, quand même, on n'est pas dans la même situation que l'an dernier. Et il y a toujours des autorisations spéciales qui peuvent être effectuées quand on a des patients qui sont extrêmement fragiles, qui ne parlent pas français, qui ont besoin d'être accompagnés. Là, le médecin peut donner son autorisation. Hein, voilà.
Ce podcast, il a un an maintenant. Ouais. Comment il a circulé? Qu'est-ce qu'il soutient? Quel retour rétrospectif vous faites sur cet acte-là?
Nous déjà, quand on a voulu mettre en place ce podcast, on trouvait que c'était un format intéressant.
Vous avez surfé sur la vague moderne. Hein.
C'est ça. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, c'est pas forcément des outils qui sont utilisés.
Ouais.
Mais là, c'est une bonne expérience en tout cas, parce que ça permet de donner de la visibilité aux professionnels et aux aidants. Et puis c'est un outil qui permet une interaction, qui crée le débat. Et on est quand même dans une société qui est beaucoup sur l'image, sur l'écrit. Et donc là, c'est un temps où on donne de la voix et on tend l'oreille. Voilà. Du coup, Aldina, on visait aussi sur le fait que les aidants soient mobiles.
Oui, le fait qu'ils puissent du coup avoir accès à ce podcast un petit peu à tout moment en fait, pouvoir mettre pause sur le podcast, revenir dessus. Enfin, c'est vraiment un outil pratique qu'on aimerait bien que ça puisse se développer sur d'autres thématiques, peut-être à l'hôpital.
Oui. Après, la circuler sur YouTube, sur le site de l'IPC. Hein, vous pouvez l'écouter en intégralité. Il est sur Deezer également, ou Spotify. Différentes plateformes. Donc voilà, on trouvait que c'était un outil qui était adapté au fait que les aidants, eux-mêmes, ne prennent pas le temps souvent de prendre les informations, de se poser.
Mandy, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous vous êtes écouté? Parce qu'on sait que c'est toujours très compliqué de s'écouter, en fait. Écouter sa voix, c'est une chose pas simple, hein, Liliane. Je pense que c'est une chose pas simple. Tu nous avais témoigné. Vous vous êtes écouté, Mandy?
Oui.
Et vous êtes plus. On a souvent comme ça des petites difficultés. C'est une facette de soi qui est extrêmement mise à distance. Hein. La voix, on s'entend, on est très unique dans sa propre écoute. Il n'y a que moi qui m'entends de cette façon-là. Vous tous, vous m'entendez autrement. Donc il y a un rapport à soi qui est au travers de la voix qui est toujours assez surprenant. Vous avez réussi donc à vous écouter.
Ouais, j'y adapte tout, moi.
est-ce que vous l'avez partagé avec quelqu'un, ce podcast? Vous l'avez fait écouter à quelqu'un?
Non, mais j'ai dit à Sandrine, peut-être, parce qu'elle est plus moderne que moi. Elle est dans tous les sites et tout ça, comme elle est déjà avec le restart, les PC, là. Ça.
Oui.
Elle comprend.
C'est ça, il faut le donner à des mondaines qui peuvent le diffuser. Absolument.
Voilà. Sandrine, c'est la présidente de l'association Restart qui accompagne les patients greffés à l'IPC, qui est très impliquée à l'IPC.
Ouais. J'avais une petite question encore pour vous, Liliane et Eldina, justement sur vous me racontiez à un moment donné dans nos relations qui n'ont cessé entre l'année dernière et cette année que beaucoup de personnes en fait ne faisaient pas attention à certains signes pouvait suggérer un cancer. Où est-ce qu'on en est avec ça? Est-ce que les personnes se présentent plus maintenant ou est-ce qu'on est encore comme ça
Alors,
freiné.
Difficile de le mesurer, hein, parce que l'année a été quand même assez compliquée. Par contre, nous, à l'IPC, et notamment avec le service social, on a mis en place un projet qui est en lien aussi avec, hein, avec les équipes soignantes. L'idéal, c'est de repérer les patients dès le début de la prise en charge, et notamment les patients qui sont à la fois patients et qui s'occupent d'un proche dépendant au domicile. Plus vite ils vont être orientés vers le service social, plus tôt on va pouvoir les informer sur les démarches à mettre en place au domicile pour pas qu'on arrive, on aboutisse à une renonciation des soins. C'est-à-dire que les patients disent « bon ben, non, moi je ne vais pas aller en maison de repos parce que qui va s'occuper de mon proche à la maison ?» Voilà. Donc en tant que service social, service soins de support, hein, voilà, on essaie de les accompagner et aussi de respecter leur rythme, hein, leur temps, parce que... enfin. Je parle d'une astuce.
Oui, c'est vrai que c'est important d'anticiper un petit peu les choses pour pouvoir faire de la prévention, on va dire, pouvoir donner les infos en amont. Mais le but, c'est vraiment de prendre le temps avec le patient, avec les dents, de prendre ce temps-là, de voir à quel moment il se décide de mettre en place des choses. Enfin, voilà, on reste quand même à disposition au niveau du service social. Et aussi, c'est aussi pour ça qu'avec Liliane, on s'était dit que ça pouvait être intéressant de travailler avec des partenaires qui travaillent, eux, du coup, sur cette thématique-là. Et on a décidé de poursuivre le projet sur cette année, de pouvoir un petit peu étendre nos connaissances sur sur la thématique des aidants pour pouvoir offrir à nos patients des informations correctes, on va dire.
Comme il y a A3 qu'on a rencontré, qui est une structure qui accompagne les aidants, parce que nous, il faut savoir que la porte d'entrée de l'accompagnement sont les patients. Donc les aidants jouent un rôle important dans la prise en charge. Donc A3, ça va être un relais extérieur pour les aidants. Après, les patients qui sont à la fois patients et aidants d'un proche, par exemple, on s'est rapproché de l'association SAGE, qui peut proposer un relais au domicile, c'est-à-dire d'envoyer des professionnels diplômés au domicile pendant l'hospitalisation, qui va en quelque sorte remplacer l'aidant. Donc, plus tôt on va avoir l'orientation, hein, de ce type de patient, plus tôt on va pouvoir travailler avec eux, parce que c'est pas facile non plus pour les patients de renoncer à cette place d'aidant. Je pense que Mandy peut nous en parler aussi. Enfin, je en tant que, enfin voilà.
Mandy,
vous
vouliez. Non, mais c'était.
C'est pour le. Pour trouver quelqu'un qui pouvait me remplacer quand il était vivant, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, pour vous, Mandy, comment ça se passe en ce moment? Est-ce que vous êtes soutenue? Qui est-ce qui vous aide?
Pour l'instant, j'y aide moi-même, j'ai mes enfants, mais parce que j'ai eu pas que mon mari, après j'ai été opérée 4 fois depuis janvier. J'étais bien malade, pas avec le cancer, mais avec autre chose. J'avais le stomie, le poche, vous savez, bon, toute une histoire.
Ouais.
Mais ça y est, là, j'y vais mieux, j'arrive de faire les choses moi-même, mais j'ai toujours quelqu'un qui passe, mais j'avais besoin de quelqu'un professionnel, comme mon mari, il était vivant.
Oui.
Voilà, pour me soulager un peu.
Oui.
Pas tellement que je pouvais rester dans la maison de repos pour une autre semaine, mais que je pouvais sortir sans le souci, est-ce qu'il va tomber, avec qui il va parler, qu'est-ce qu'il va faire. Voilà, un petit soutien comme ça pour rester avec lui, pour aider, voilà. C'est des petites choses, mais quand on a ça,
c'est des grandes choses.
Tous les jours, c'est beaucoup.
Alors, pour un petit soutien, là, tout de suite, on va passer dans cette émission une chanson que vous avez choisie. C'est quoi le titre de cette chanson que vous avez choisie et en quoi elle est importante pour vous, Mandy?
Et ça s'appelle en anglais « He lifts me up ». Ça veut dire que Dieu, quand je suis pleine de basket, je me chante ça. Et c'est Dieu qui te soulève. Après, tu sens capable de marcher sur la montagne, dans l'eau. ça te donne la force.
Ah, capable de tout. Ok.
Voilà, capable de tout.
D'accord. Ok.
Voilà.
On vous souhaite d'être capable de tout, Mandy, et on sait que vous pouvez l'être. On redonne juste la parole 2 secondes avant d'écouter le morceau à Liliane.
Juste, ouais. Voulais ajouter qu'à l'IPC, il y avait le comité des patients aidants, qui est un groupe qui est constitué de patients qui sont suivis à l'IPC en cours de soins ou qui l'ont été, de proches et de professionnels, voilà, qui recrutent en ce moment. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du comité patient aidant de l'IPC. Merci.
Merci
Liliane.
Merci d'avoir été là.
Merci Mandy. On écoute You Rise Me Up sur Radio Grenouille. C'était You Rise Me Up, un choix donc de Mandy. Merci beaucoup à Liliane et à Lina de l'IPC, l'Institut Paoli Calmette. Pardon,
c'est ça,
j'ai eu
un petit bug.
Vous écoutez toujours Radio Grenouille dans le cadre des 40 ans cette année 1981-2021 et vous écoutez Le Nez Dehors. J'ai le plaisir de réaccueillir Pascal Messaoudi. Resalut Pascal.
Resalut.
Alors on t'a invité avec Nelly parce que tu es un compagnon de longue date de la radio, que vous avez fait des choses ensemble cette année, donc dont des promenades sonores dont on va discuter, et tu as travaillé aussi à Radio Grenouille pendant un moment.
Mais oui, mais moi j'ai envie de te demander, Pascal, pour commencer, est-ce que t'as un souvenir, une expérience naissance, un moment qui t'accompagne, que tu as pu vivre à Radio Grenouille. On en a tous mille, hein, des souvenirs un petit peu particuliers ou une rencontre. Je sais pas, moi, j'ai des souvenirs de rencontres absolument ratées alors que j'aurais souhaité qu'elles soient magnifiques. J'ai des souvenirs de montage où j'ai jeté tous les silences alors qu'il fallait les garder. Est-ce que toi, il y en a un comme ça qui te vient à l'esprit?
Bah écoute, il y en a beaucoup.
Oui.
Mais je vais en dire un.
Allez.
Parce que c'était toute la radio a vécu, je pense, à ce moment-là, un truc un peu fou. Mmh. Je sais pas si tu te souviens, Courgouffé, l'envie nous est venue de, c'était à l'époque où on faisait des semaines thématiques et c'était la semaine thématique squat.
Là, on est voilà. Dans les années début des années 2000.
Début des années 2000, ouais, 2005, 2006, ça devait être thématique squat et on n'a rien trouvé de mieux à faire pour fêter la fin de cette thématique que d'ouvrir un squat. Et on a ouvert un très grand squat.
On est comme ça, nous.
Donc c'était dans le Courgouffé, un ancien bâtiment de d'EDF. On est rentré de nuit, on a cassé un carreau,
quoi.
Et puis on s'est installé. Ça n'a pas duré très longtemps. On est passé au tribunal et tout, mais voilà. Ça, c'était... On a fait une grande fête.
On a fait de la radio, quand même.
Et on a fait de la radio, énormément. Et on a fait une grosse fête. Grosse fête. Avec plein d'assos qui sont venus soutenir le... Il y avait, il y avait la Ligue des Droits de l'Homme, il y avait un centre-ville pour tous. C'était un peu aussi pour bousculer un peu, à l'époque, à notre façon. C'était peut-être nos places de journaliste qu'on a envie de bousculer aussi, d'être un peu acteur des thématiques qu'on aborde. Mmh. Et voilà.
Mais il est drôlement bien ton souvenir, dis donc. Il est drôlement intéressant parce qu'effectivement, il replace aussi le fait que à la radio, on se reconnaît pas comme étant journaliste au sens classique du terme, mais effectivement plus avec, en compagnie, à côté, dedans. Alors je m'en souvenais absolument pas, moi, mais c'était peut-être
c'est revenu de là comme ça.
Un peu ailleurs, ouais. Et il est chouette ce souvenir alors. Et tu nous as quittés malgré des souvenirs pareils.
Après
et
le tribunal.
Des actions pareilles. Tu es réalisateur, tu es indépendant. Malgré tout, on s'est jamais quitté.
Tout à fait.
On a continué à tricoter, à fabriquer ensemble, plutôt dans des espaces de transmission. On est des transmetteurs tous les deux et puis on fonctionne plutôt bien en duo binôme. Donc tu fais pas mal de choses à cet endroit-là. Et puis on se retrouve aussi, on s'est retrouvé en 2013 pour lancer une collection de 40 promenades sonores. Ça, c'était le projet de Radio Grenouille pour la capitale culturelle en 2013. Là, tu as réalisé une promenade, tu nous as fait une proposition.
Oui, à l'époque, j'étais en prison. À l'époque.
C'est ça.
Et du coup...
Après le tribunal de la prison, c'est normal. Hein.
Et oui, j'ai fini là-bas. Il se trouve que pendant quelques années, j'ai animé le Radio Baumette, qui se trouve en prison
au Baumette.
Et du coup, avec l'association Plateau Radio, avec Robex, qu'on salue tous, pendant quelques années, c'était à cet endroit-là, j'y allais une semaine par mois. Et du coup, j'étais avec pas mal de détenus avec qui on travaillait depuis longtemps et on avait vraiment c'était une belle aventure, Radio Baumette. Les promenades sonores, le projet des promenades sonores... a été lancé et c'est vrai que je me souvenais pas que c'était moi qui avais proposé que ça se passe avec les détenus, mais ça s'est passé comme ça. Donc la première promenade sonore que j'ai réalisée avec vous, c'est surtout les détenus qui l'ont réalisée, puisque les détenus de l'intérieur guident les promeneurs à l'extérieur. Pour certains ne connaissent pas l'extérieur direct de la prison parce que c'est une promenade qui longe le mur d'enceinte des Baumettes. Ce mur sur lequel sont inscrits les 7 péchés capitaux.
C'était osé quand même de faire travailler les détenus sur les péchés capitaux.
Tout à fait. Ben, ça a été de grandes discussions. Je me souviens à l'époque, À l'époque, donc c'était un groupe avec qui j'avais l'habitude de travailler. On faisait vraiment de la radio, hein. Mais ce truc de faire une promenade sonore à l'époque, bon, on pouvait pas trop savoir ce que c'était. C'était le début. Mais ils avaient peur quand même d'un phénomène zoo, que les gens viennent au Baumettes, enfin faire cette promenade pour écouter les détenus à l'intérieur, et qu'il puisse y avoir un petit phénomène, côté
un peu voyeur,
tout à fait. Et on a beaucoup parlé de ça. Et moi, là où on s'est entendu, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il peut y avoir beaucoup de personnes qui viennent chercher ça, à eux de changer de répondre autrement à la question, à la sollicitation. Et du coup, on a fait une très belle promenade, garçons et filles, ce qui n'était pas évident à l'époque. Et ça s'appelle Les Voix de l'Intérieur, toujours sur le site des promenades sonores. Et la fin, on peut pas aller jusqu'au bout maintenant.
C'est ça, le parcours,
a changé un petit peu.
C'est modifié. Alors, on peut donc l'écouter sur une certaine partie de son parcours d'origine.
C'est ça.
Et ça ne nuit pas beaucoup à l'appréciation de l'expérience. Donc, on conseille à tous de se connecter sur www.promenade-sonore.com. Là, on va écouter un extrait de on change complètement d'univers, de la prison, on s'en va du côté de entre Tourve et Mazog. Ça, c'est un projet qu'on a mené en Provence verte, tu étais aux côtés de Balthazar Montanaro et de Christophe Modica, avec ma collègue Pauline. On vous a embarqué tous les trois avec Jean-Baptiste pour réaliser donc trois promenades sonores en Provence verte, accompagné d'un travail quand même de relation avec les habitants de chaque village. Donc voilà, tu t'es entouré. On a trouvé des habitants qui avaient envie d'avoir un rapport au son et d'être en témoignage aussi sur ce qu'ils vivent. Sur leurs collines, sur l'histoire de leur village, sur ce que pourrait être certains lendemains. On écoute le teaser de la promenade.
Le paysage a changé parce que ça va faire tout à l'heure 30 ans que c'est fini, la mine. Enfin, en gros, depuis 90. C'est immense.
Non, c'est plus des souvenirs de recentrage sur soi-même. Des souvenirs de bien-être, mais...
Et pourquoi ce rouge ? Ah, c'est beau, hein ? Ah, c'est beau, hein ?
Voilà, ça c'est un extrait des terres rouges jusqu'aux terres blanches. Aux roches blanches, pardon. Une promenade sonore qu'on a réalisée en 2018.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Entre Tourve et Mazog, dans un endroit extraordinaire, un petit canyon.
C'est vraiment un spot incroyable. Mmh. On vous conseille d'aller la faire. Ouais. Là, il reste encore quelques beaux dimanches. Vous vous connectez sur le site. Il y a une indication très précise GPS qui vous permet, puisqu'on part d'une route en fait. Hein. Vous prenez votre petit pique-nique et arrivez à la fin de la promenade, vous vous installez. On vous dit pas où. On vous dit pas ce que vous allez voir, on vous dit pas ce que vous allez ressentir, parce que t'as essayé de faire dans cette promenade aussi de raconter ce qui s'est passé sous terre, hein, puisqu'on est dans un pays de bauxite et de mineurs et que ces questions-là sont aussi au cœur.
Si les mines sont fermées, elles sont très présentes encore.
C'est ça, complètement présentes. Juste signaler qu'ensuite, et jusqu'à il y a très peu de temps, tout le début de l'année, en fait, on s'est baladé dans le Verdon, tous les deux, dans trois villages. On est allé inaugurer ces promenades sonores il y a 15 jours. On était à Saint-André-les-Alpes, à Beauduan, au bord du lac de Sainte-Croix, et du côté de Ginaservi, à Saint-Julien-le-Montagnier. Allez-y, un samedi ou un dimanche, les promenades vous attendent. Les habitants aussi, à mon avis, vous attendent. Et je voulais, si t'es d'accord, Pascal, qu'on revienne à Marseille avec la dernière actualité des promenades sonores que tu as faites, Jean-Baptiste, avec Grand Bonheur.
Tout à fait, donc avec Grand Bonheur.
Que t'as fait avec Grand Bonheur, c'est marrant parce que...
Ça marche bien comme phrase.
Ouais.
Ça marche bien. Alors Grand Bonheur, c'est une coopérative d'artistes qui regroupe beaucoup de musiciens sur Marseille et qui, pour leur rencontre professionnelle, puisqu'ils promeuvent beaucoup la chanson francophone, notamment à travers le festival Avec le Temps, et dans le cadre de ce festival, ils accueillent beaucoup de producteurs, de tourneurs de la scène francophone, donc des Québécois, des Suisses, des Belges. Et pour ces rencontres professionnelles, ils voulaient pas les mettre autour d'une table de manière classique et donc ils nous en demandent de penser des promenades sonores pour faire promener dans Marseille avec des artistes de leur sélection dans les oreilles sur un parcours qu'on a travaillé avec eux. Et donc on a fait la première qui traverse Noailles avec Fred Nefché, très connu sur Marseille, la deuxième qui part du boulodrome Carly à côté du conservatoire vers le cours Julien avec Hakim Amadouche, le mandolutiste de Rachita, exactement,
voilà.
Donc il nous fait un peu la tournée des bars dans les années 80 quand il a débarqué à Marseille, donc on entend des belles histoires sur ce parcours. Et la dernière, c'est avec donc Moïcha 13, une artiste plus contemporaine, je vais dire, même si Fred est quand même très 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 actif musicalement, mais Moïcha 13 nous partage sa vision politique de la ville, la manière de se réapproprier les rues, les monuments, tout ce qui est l'héritage du colonialisme français, de l'impérialisme français, comment à travers le Palais Longchamp, on traverse aussi une partie de la Canebière, on arrive au niveau des réformés, au monument des mobiles, comment certaines traces dans la ville invisibilisent, effacent aussi toute une partie de l'histoire de la France, alors de Marseille aussi en particulier, et cela se mêle évidemment à son travail sonore et musical, quoi. Donc peut-être on peut écouter un extrait, je sais pas lequel
le
vous avez
teaser.
Sélectionné. Djilali, on écoute le teaser donc de Moïcha 13, dont on citera le titre juste après.
C'est ça qui m'a tout de suite parlé, en fait. Je me suis dit, en fait, tout le monde peut se réapproprier le quartier. J'ai vu en ça un côté où c'est nous qui construisons, en fait, et c'est nous qui avons à libérer la parole. En même temps, on peut pas attendre tout des institutions, on peut pas tout attendre des politiques, en fait. On a aussi un rôle à jouer. C'est une plaque qui libère la parole. Et c'est une plaque, en fait, qui rend visible l'invisible. C'est pas une affaire d'un policier avec un individu, en fait. C'est vraiment à une échelle très, beaucoup plus globale. Et ça rappelle un petit peu, ce qu'on a vécu en tant qu'immigrés, ou enfants d'immigrés, diaspora, etc. Ça nous renvoie à nous-mêmes et aux questions qu'on se pose, nous, aujourd'hui.
Donc voilà, c'est le teaser de la promenade sonore réalisée avec Moïcha 13 qui s'appelle donc Invisible Résistance. Merci Margot. Donc voilà, à faire effectivement, quand vous voulez, là sur Marseille, il suffit de télécharger sur le site ou de la faire en streaming même, mais vous pouvez la télécharger, ça fait une petite collection.
Streaming, ça marche bien.
Ouais. Et donc vous mettez votre casque et vous vous laissez guider donc par les indications pour pas se perdre, ou alors se perdre même, c'est une autre expérience, mais c'est possible. Mais voilà, les promenades sonores.
Merci beaucoup,
c'est
Pascal,
bien.
JB. Rendez-vous donc sur le site des promenades sonores. Vous pouvez y aller directement par le site de Radio Grenouille ou en tapant promenade sonore Radio Grenouille.
Et merci Pascal d'être venu.
Merci, merci à vous.
Merci à tous.
Charmante invitation.
Et il est super ce studio parce qu'il est un peu en plus calfeutré, parce que c'est une fourmilière en ce moment, juste une petite parenthèse.
Ah là là, dans
là, la
tous
radio,
les sens là.
C'est la folie, il y a eu la raboum ce matin, il y a des enfants partout, il y a des sages-femmes, il y a un buffet incroyable comme tous les jours cette semaine.
Ouais.
Et là vraiment c'est la fourmilière, c'est plein de vie.
Et
c'est très appréciable, mais voilà.
Jean-Baptiste, on se retrouve à
14h. À 14h, on enchaîne.
Pour les ondes folles, Radio La propose. À tout à l'heure.
On fait une toute petite pause musicale avant d'accueillir Bernard Robert et parler de la Fiesta des Suds. On écoute Messaoud Belemou accompagné de Amani Adjoum, Sidi Hbibi.
Thank you. Baroni.
Vous écoutez comme tous les midis, midi 13h de cette semaine, Le Nez Dehors, et c'est quasiment la fin de cette émission, mais comme annoncé récemment, on a le plaisir d'accueillir Bernard Robert. C'est Mario qui est là pour l'interroger, le cuisiner, parce que c'est pas que les 40 ans de la radio, c'est aussi un autre anniversaire de la Fiesta. Salut Mario.
Oui. Salut Margot, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Bernard.
Bonjour.
C'est un plaisir de te retrouver, comme chaque année, sur les ondes de Radio Grenouille. Tu es co-directeur artistique maintenant de la Fiesta avec Séverine Mattei aussi qui programme. Et alors, Margot, oui, tu l'as dit, donc la Fiesta à chaque fois c'est le jubilé de l'été. Début octobre, on sent frémir quelque chose, c'est la Fiesta et ensuite on peut se reposer, on peut partir dans un automne moribond et mourir vers l'hiver. Mais là, il reste encore la Fiesta pendant quelques jours. Et alors, vous avez un peu triché, joliment, puisque Bernard, c'est ça, c'est la 30e édition. Et l'an prochain, c'est les 30 ans.
Et oui,
j'ai annoncé les 30 ans, mais c'est la 30e édition.
Bon. On n'arrive pas à s'empêcher de faire la fête. Donc on se dit, on a trouvé ça, 32, on trouvera quelque chose, il n'y a pas de problème. Bon, on a 30 ans, vous avez 40, tant pis pour vous.
Hein. Et depuis 30 ans, la Fiesta voyage. Il y a eu les docks récemment, les docks des Suds. Et puis avant, il y a eu la Friche Belle de Mai, les docks de la Joliette. Et là, vous revenez finalement au J4, sur l'esplanade du J4.
Face vous au Mucem, étiez... face ouais. à Ricciotti, etc. etc. et surtout face à la Méditerranée. Ça nous plaît bien. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que sur cette ville, on est un petit des vieux gitans. Nous, on aimerait bien se promener sans arrêt sur des endroits post-industriels parce qu'on a envie de montrer ces bâtiments et d'y vivre dedans, donc, et de faire la fête aussi. Mais le J4 nous propose d'avoir une esplanade pas très loin du centre-ville et qui nous permet de faire une fête sympa. Alors on est en train de réfléchir peut-être pour les 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38e anniversaire. On est en train de réfléchir à des lieux un peu atypiques et surprenants. Et un des possibilités, ça serait de valoriser aussi les sites. Un peu comme on fait les Transmusicales de Rennes, de valoriser les sites musicaux. Parce qu'il y en a pas mal à Marseille, on en a répertorié nous 25. Qui font un travail tout au long de l'année et qui sont jamais vraiment valorisés, comme le Makeda et d'autres.
Et oui, donc ça serait cette itinérance-là, Bernard, elle raconte une histoire aussi, elle raconte quelque chose, elle raconte des rencontres. Puisque la Fiesta aussi, ce sont des rencontres. C'est le bouillonnement urbain, c'est rentré aujourd'hui dans la mémoire collective de cette ville. La Fiesta, ce sont des moments de fête. Avant tout, comme le porte son nom. Et alors Bernard, je voulais te faire écouter quelque chose. À l'occasion des 25 ans du dernier anniversaire un peu fêté de la Fiesta, Radio Grenouille était parti récolter des souvenirs de Fiesta de la part d'habitués. On va en écouter une de Chiki. Est-ce que tu connais Chiki?
Mais bien sûr.
on va l'écouter et il va en dire long sur ce qu'est aussi la Fiesta. C'est parti, Dilou.
Le souvenir de Chiki, conducteur de TER et noctambule téméraire.
C'est une putain de rendez-vous quand même, quoi. Tu vois la Fiesta, tu vois. Parce que moi, je me régale à la Fiesta parce que je vais écouter du bon son ou pas. Mais surtout, je sais que c'est l'endroit à Marseille où je vais croiser le plus de gens. Je passe à la moitié de la soirée à retrouver des gens que j'ai pas vus depuis un moment ou que je croise tous les jours, mais que je suis trop content de les retrouver à cet endroit-là parce que voilà, c'est tellement fédérateur. Et maintenant, il y a de moins en moins de soirs et c'est un peu triste, c'est que je sais pas comment ça va évoluer. Mais c'est vrai que je voulais te dire qu'il y a eu des soirs où j'ai pas vu un concert. À l'époque, il y avait le spot, il y avait les huîtres. Il y avait les huîtres entre à la sortie de la salle des sucres, entre le chapiteau. Il y avait les huîtres. Il y avait les huîtres et le vin blanc. Mais je peux te parler d'une soirée où je n'ai rien vu. On s'est retrouvés là, une dizaine, et au fur et à mesure, les gens qui passent. Qu'est-ce que tu fais? Et vas-y, qu'on se buvait du blanc en mangeant des huîtres. J'ai passé une soirée, j'ai mangé des huîtres et j'ai bu du blanc toute la soirée. J'ai pas vu un concert. Mais c'est ça aussi, quoi, tu vois, la Fiesta. Bon, après, c'est clair que bon, j'ai vachement apprécié le moment, peut-être parce que j'avais eu une invite. Peut-être que si j'avais payé, je serais allé voir un ou deux concerts quand même, quoi, tu vois. Mais bon, ce jour-là, bon, c'est vrai que je devais avoir une invite. Et c'est clair, mais cette soirée de dingue, tu vois, avec ces centaines de personnes qui passent toujours à côté de toi, tu en connais toujours un ou deux qui viennent se fédérer à toi, qui viennent boire un coup de blanc, qui viennent manger une douzaine d'huîtres et tout. Donc c'est vrai que c'était aussi ça, quoi, tu vois, c'est aussi un lieu de rendez-vous. Et à cet endroit-là, souvent aussi, il y avait la banda du Doc qui venait jouer. Et la banda du Doc, c'est pareil, les gens, ils les connaissent à Marseille, c'est une super fanfare. Ils jouent des trucs fantastiques et qui te font jumper. Et tu te retrouves, et souvent on se retrouve d'ailleurs au même endroit, là, sur les petites marches, là, où ils font sauter tout le monde. Et c'est fantastique de se retrouver autour d'eux, quoi. D'ailleurs, en général, quand ils sont là, tu les suis, quoi. Tu les suis. Mais franchement, les huîtres et le vin blanc, c'est dommage que ça y soit plus. Voilà. Ils ont intérêt de mettre, s'ils ont enlevé le truc, j'espère que c'est pour mettre des bons groupes de musique. Voilà. Sinon, si tu mets de la merde, non. Alors remets un stand avec des huîtres. Hein. Ah ben je te jure, pas vu un concert.
Incroyable ce témoignage de Tiki.
Bon, honnêtement, on peut le sécuriser aujourd'hui. C'est ce soir, demain après-demain, et c'est pendant 3 soirs, il y aura des huîtres et du vin blanc.
Et du vin blanc.
C'est revenu tout ça, oui, il n'y a pas de problème.
Bon, mais je trouve ce témoignage résume vraiment aussi l'esprit de la fiesta.
Bien sûr.
Et la fiesta, ce sont quand même des concerts où vous mélangez des styles, des formats avec des artistes émergents, des artistes plus grand public, tout en laissant une place assez importante à la scène locale. Bernard, il nous reste peu de temps, mais on va essayer de balayer la programmation de cette édition ensemble. On commence par jeudi, alors avec un collectif particulier, le collectif Arbuste, qui est très très intéressant parce que là, il y a un show scénique.
Instrumentarium, c'est assez étonnant parce que c'est des gens qui sont de Marseille, donc on leur a donné une scène, ils vont programmer plein d'artistes dessus, mais ils sont aussi à l'intérieur de la fête. C'est un petit peu ça la fiesta, c'est un condensé de ville, donc bien évidemment il faut les cousins, les frères, etc. et toute une série de gens. On vient de 80 à 16 ans, et à partir de là, la programmation a cette image-là. On ne veut pas faire une programmation, et ça ne nous intéresse pas, nous, de faire une programmation typée, communautaire, avec une esthétique précise. On se retrouve quasiment à se faire la bise de tous. C'est pas ça le but. Le but, c'est de faire un condensé de ville et de présenter un festival qui ressemble à cette ville, mais qui aussi transcende les genres au niveau des communautés. On est dans une société où on est un, et nous, on a envie d'être plusieurs.
Alors, donc, eux, ils sont 4 électro-percussionnistes du collectif Arbuste. Il y aura Célassou, que l'on avait à l'antenne hier soir sur les ondes de Radio Grenouille, cette flamande qu'on ne présente plus. Il y aura Hervé également, révélation masculine cette année aux Victoires de la Musique avec son univers électropop, lui aussi. Restons dans l'électropop le lendemain, Bernard, avec Woodkid. Qui lui aussi a un show assez démesuré, orchestral.
Et il a voulu faire ça à Marseille. Il aurait pu faire le Dôme, toute une série d'autres salles. Il voulait faire ça à Marseille et à la Fiesta des Suds, puisque l'année dernière, il a en partie annulé sa tournée. Donc, il sera là. Faut voir ça. Parce que c'est, en plus de la musique, alors donc, on va peut-être manger on va boire du vin blanc et manger des huîtres aussi, mais en plus de la musique, il y a véritablement un show autour de ça, et ça valorise totalement le Mucem, le Faro, vous verrez. Et notamment de la garde par-dessus, donc c'est parfait.
Il est épique, Woodkid.
Voilà, et puis c'est peut-être un des spectacles qui cette année m'a le plus surpris, donc je suis très très heureux de le programmer à la Fiesta, bien sûr.
Il y aura également Laurent Barden et Tigre d'eau douce, un projet que l'on a accueilli sur les ondes de Radio Grenouille au début de l'été. Laurent Barden qui est de beaucoup de projets, dans des formations de jazz, mais aussi des formations pop, il était de Pony Ox, de Limousine. Là aussi c'est assez intéressant, on a un afro-jazz imprégné aussi de pop. Il y a beaucoup d'hybridation pop dans la Fiesta, le pop comme aussi le populaire. Et on l'a vu avec Woodkid, on le voit encore avec Laurent Barden, avec Hervé, et à de nombreuses reprises. Et puis, alors là, si Laurent Barden et Woodkid ne vous a pas encore fait dresser les poils et bouger les genoux, il y a Ghetto Kumbé, qui est une fusion afro-futuriste monstrueuse.
Ça fait partie des résumés peut-être de la programmation, c'est que nous on aime bien la musique traditionnelle, folklorique, on vient du monde de la musique, mais la musique pour 2021, les gens travaillent là la cumbia, à partir de la cumbia, ils auraient pu rester traditionnels, ils étaient des stars là-bas, Manu Chao est tombé amoureux d'eux, mais c'est c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Ce qu'ils ont envie de faire, c'est des oreilles 2021, des oreilles qui vont les écouter, les surprendre, et ils vont peut-être de revenir à la cumbia. Ça ressemble un peu à ce qui se fait actuellement dans le hip-hop ou ailleurs. C'est qu'on redécouvre les origines africaines du hip-hop. Ben eux, ils ont redécouvert les origines africaines et traditionnelles de la cumbia en y mettant de l'électronique, du festif. Et si on n'est pas capable de danser sur ce groupe-là, je crois qu'il vaut mieux aller se coucher ce soir-là, parce que c'est une très très mauvaise soirée.
On a fait danser les enfants sur la boom pour enfants qu'on a organisée devant la radio ce matin sur ce titre, Esso no me falla, l'électropical de Ghetto Kumbé. On l'écoute un peu. Esso no me falla. Esso no me falla. Esso no me falla. Esso no me falla. Esso no me falla de Ghetto Kumbé, vendredi soir, lors de cette 30e édition de la Fiesta des Suds. Il y aura également Matteo de Chinese Man Records, et puis bon, tout le programme est à retrouver sur le site de la Fiesta. Bernard Robert, on finit avec samedi, avec de beaux noms là aussi, des DJ, Guts, The Avener, Goldie B, qui est une Marseillaise.
Exactement, et qui est très très intéressante à venir écouter, parce qu'elle surprend encore une fois. C'est pas seulement sa musique qu'elle le fait, c'est aussi sa musique bien sûr, puis ça le devient, mais c'est une façon de travailler le son qui m'a interpellé et qui a interpellé Séverine aussi quand on l'a programmée.
Assez down tempo, mais elle est aussi, voilà, elle est productrice, elle est musicienne, elle faisait partie des Wicked Girls, qui ont été résidents sur Radio Grenouille. On connaît bien Goldie B. Et puis ensuite, on va finir, parce que je vois que l'heure tourne, et Denis Carté est dans les starting blocks pour son mix à 13h, en public, aux 80. Voilà, il a plus mal au ventre, il a encore la force pour fumer des roulés sans filtre. Il est chaud aux patates, il a des rubans. Oh là 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 là, il a des bobines autour du cou, le retour de l'homme de la rue. À 13h, venez à la friche pour assister à ça. Courez, courez vite. Avec le vent dans le dos. On finit. Bah, Denis, c'est notre chef de meute. À nous, un des chefs de meute de Radio Grenouille depuis 40 ans. On va finir avec Meute, l'électro marching band allemand, qui est très house aussi et qui va mettre le feu samedi soir.
Bien Bernard. Sûr, encore une fois, à partir de la musique funk et rock, et de toutes les rétrospectives de toute cette musique-là, ils ont inventé une façon de travailler la fanfare de rue. Nous, on adore ce groupe Meute. N'hésitez pas, venez, mangez des huîtres, buvez du vin blanc, on vous attend.
Merci beaucoup Bernard Robert, merci. Merci d'être venu, très très belle fiesta à vous. Et à tous les Marseillais.
Merci à Julien La Technique, et à 13h, c'est donc Denis Carté. Salut.